Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Topcast, un Topcast très très près de la précédente émission, parce que l'actualité est riche et ça me permet de rappeler à nouveau ma fine équipe des Avengers de la baston. Je veux bien sûr parler de la team Bagrepoint, mais permettez-moi de vous introduire ces héros du quotidien comme il se doit, et je vais appeler le premier d'entre eux. Tel un mec du kebab que tout le monde appelle chef par principe, voici celui dont la seule arme est un bouclier d'intransigeance et une droiture digne des meilleurs polémistes du PAF, notre capitaine à nous, j'ai bien sûr appelé Legacy of America. Bonjour Legacy, bienvenue à toi.
Est-ce que ce A stand pour France?
Mais... peut-être.
Salut à tous.
Il a exploré les terres sacrées du Wakanda pour trouver le meilleur café à servir aux fashionistas des beaux quartiers de Paris, et il a juré de reprendre à Kanye West le titre d'idole de sa génération. Veuillez acclamer l'incroyable panthère du versus fighting, Black Shake. Bonsoir à toi.
Wakanda forever.
Il a même l'accent, il a même maîtrisé l'accent. C'est fort.
Yes, my brother.
Yes, my brother.
I am the king of Wakanda.
Ensuite, traversant l'univers à la recherche de la chicha cosmique, il met son bounty au service de la paix et de la justice. Il est le twist du film, la future idole des cosplayeuses et le rêve humide des jeunes hommes en fleurs. Je parle de la Marvelous Captain Alba Fika. Salut Alba, bienvenue à toi.
Salut à tous, merci pour cette description très sexy.
Mais qui est quelque part à ton image et je tenais à te rendre justice.
Merci beaucoup, mais il y a un garçon aussi. Il y a un garçon qui est Captain Marvel.
Il y a aussi un monsieur Captain Marvel.
On sait que c'est pas ton idole, quoi.
Voilà. On sait que t'as quand même choisi la jolie blonde et on ne t'en voudra pas parce qu'on serait hypocrite, je pense. Et puis, en ce qui me concerne, je suis le support logistique de l'équipe, celui qui ordonne la bataille, même s'il n'a rien d'un leader charismatique. Mais ses petits camarades l'aiment bien quand même. Permettez-moi de me présenter. Je suis Iron Flashou et nous allons pouvoir commencer, vous l'aurez compris, ce spécial Avengers Infinity War. Donc messieurs, là le film vient de sortir ce mercredi. Il y a eu certains d'entre nous qui l'ont vu mardi d'ailleurs, il me semble, Shake, je crois que tu as fait l'avant-première, non?
Sur Paris, il n'y avait pas d'avant-première, je crois pas qu'il y ait avant-première du tout en fait.
D'accord.
Parce que pour préserver du spoil.
Ouais, sachant qu'il y en a, alors j'annonce de suite, cette émission est garantie 100% spoil. Si vous ne voulez pas
même
savoir ce qui se passe dans le film, barrez-vous. Hein.
On va même spoiler Avenger 4. Hein.
Oui, il y a des chances. Il y a des chances. On va être dans le futur, parce que
le
voilà.
Le gant de l'infini fait ça aussi.
Le quoi, pardon?
Le gant de l'infini.
Le gant de l'infini a ce pouvoir de voir l'avenir et on va un peu manipuler le temps, mais on altérera la réalité si ça déconne trop. Donc, je vais faire un petit rappel quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Infinity War? C'est tout simplement le point d'orgue de 10 ans de préparation. De la part des studios Marvel autour de les Avengers et l'histoire de ce gant de l'infini, alors qui est une histoire légendaire parmi les histoires de Marvel, donc qui s'intitule La quête de Thanos. En fait, c'est un grand cycle avec plein de sous-intrigues et qui a servi de point d'ancrage pour être le métaplot de tout le Marvel Cinematic Universe, même si l'idée n'était pas d'adapter littéralement l'histoire, c'était la transposition de toute cette thématique-là, avec en toile de fond le méchant Thanos, qui a été désigné en tout cas comme le méchant, le plus méchant de tous les méchants de tout l'univers, le plus dangereux, le plus méchant, le plus tout ce qu'on veut. Et donc ça y est, après 10 ans d'attente, Thanos arrive enfin dans le game, et il n'est pas content, on peut le dire. Alors messieurs, je vais déjà vous demander en un petit tour de table ce que vous avez pensé du film, simplement me dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'était bien, c'était pas bien, par rapport à ce que je m'y attendais. Donc on va commencer par Black Shake, voilà, au hasard. Comment as-tu trouvé
ce film ? Ok, ok. J'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà quoi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai revu hier. Du coup, ouais, j'ai deux visionnages en actif. Et ouais, ça reste un très bon film, mais tu sens quand même que il a été fait en deux parties, quoi. Je pense qu'on en reparlera, quoi, mais ouais, pour vraiment juger un peu dans le classement du MCU, je pense qu'il faudra que je voie la deuxième partie, parce que c'est... Ouais, c'est...
Ce que film fait, c'est très fort,
mais il me faudra un peu plus, ouais.
Ok.
C'est un peu ça, ouais.
Question bonus, VO, VF, tu l'as vu ?
Les deux en VO, évidemment.
Les deux en VO, ok.
Moi, j'habite à Paris, hein. Je n'habite pas en mise en garde, ou pas.
C'est vrai qu'en mise en garde, c'est plus compliqué. Nous saluons notre petit camarade Fix, qui, lui, n'a pas pu voir le film. Mais
il
c'est normal.
Il n'est pas encore dans le cinéma municipal.
Ben non, mais tu sais qu'ils sont ravitaillés par les corbeaux et tout. Puis comme c'est un peu compliqué pour eux en ce moment... Enfin bon, voilà. Ne parlons pas de la politique municipale désastreuse. Et revenons sur le film. Et ben justement... Captain Albafica, votre avis, je vous prie, sur le film.
Alors, j'ai beaucoup apprécié le film. Je l'ai vu deux fois en VF, malheureusement. Moi, je l'ai comparé En fait, je m'attendais à pas aussi bien. Parce que j'avais vu Avengers 2, et Avengers 2, je l'ai trouvé pas terrible. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils m'ont commencé à s'essouffler. J'avais peur qu'il y ait trop d'humour. Et en fin de compte, le film m'a fait mentir. Je l'ai trouvé très bon. Même une deuxième fois, je l'ai trouvé très bon. Il est vite passé.
Alors qu'il fait quand même 2h30. Hein.
Ouais. J'aurais donné 5 heures de ma vie.
Oh.
Et j'ai apprécié.
Et alors, justement, tu disais que tu l'avais revu donc dans un intervalle super court finalement, parce que la deuxième vision tu l'as fait aujourd'hui et la première fois tu l'as vu c'était jeudi
mercredi ouais.
D'accord, donc en même pas une semaine, enfin de toute façon c'est valable aussi pour un échec, même pas une semaine tu vois deux fois le même film et t'arrives quand même à avoir de l'intérêt, de la fraîcheur
Ouais, ça m'a même fait du bien de le voir une deuxième fois parce que je l'ai mieux compris parce que j'ai compris que le noir il était mort en premier. Alors que j'avais pas calculé ça comme ça au début, mais oui, le pote de Thor, le noir, il meurt en premier, les enculés.
Ah,
je veux partir de la salle.
Ah, moi aussi j'étais offensé, hein, franchement.
Mais la première fois ça m'a pas choqué. Mais là je l'ai revu mourir.
Et là t'as compris qu'il y avait un monsieur noir qui mourait et que c'était pas cool.
Voilà, même s'il avait les yeux verts ou je sais pas quelle couleur. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié le film, comme dit Tchèque. Faut que je le voie. Faut voir la suite pour voir comment ça se complète. Mmh. Et j'ai été pris à contre-pied aussi parce que je ne pensais pas qu'on allait suivre le despote.
D'accord.
Parce que c'est son film.
Ah oui, on le verra quand on fera le déroulé de l'histoire, mais c'est quand même avant tout Thanos Adventure.
Voilà.
Ok. Alors,
j'en dirai pas plus.
Je vais passer la parole à Legacy of America.
Ah oui. Moi le film, donc j'ai vu mercredi VF pardon, parce que la VO était l'après-midi et il y en a qui travaillent. Donc le film excellent, mais c'est vrai qu'il y a cette impression d'avoir en fait à la fin du film d'avoir juste vu la moitié d'un métrage en fait, d'être au moment où les héros se sont fait tous défoncer et ils doivent step up pour la deuxième partie du fight. Donc c'est vrai qu'il y a cette impression de moitié de film. J'ai l'impression d'avoir payé full tarif pour moitié de commande. Bon, on va attendre ce que ça donne la suite, mais la première partie est déjà très très bonne. Les scénaristes nous assurant que le Avenger 4 est encore meilleur.
Alors moi j'ai une question à vous poser, après je vous dirai aussi mes petits avis sur le sujet. Est-ce que vous connaissiez le comics d'origine ? Est-ce que vous connaissiez l'histoire d'origine ? Est-ce que vous l'avez vu ?
Oui, j'ai vu, enfin j'ai pas entièrement lu parce que le site sur lequel je lisais il a fermé.
c'est quand même la meilleure
façon. Non mais c'était Comixology, il payait son accès, c'est bon.
Bah oui, voilà, il a fermé.
C'est vraiment, ça c'est vraiment le visionnage très très strict de ces aventures. Ok. Donc moi, j'ai cette BD chez moi, je l'ai lu et relu. C'est une de mes préférées de tout ce qui a pu être fait en crossover Marvel. Et moi, l'avis que j'en ai eu, donc je l'ai vu en VO, c'est que ils avaient eu la bonne idée de pas trop s'attacher à cette histoire, parce que s'ils avaient essayé de l'adapter plus littéralement, ça aurait eu l'air ridicule.
Ah bah ouais. Quand ils se font téléporter chez Thanos et qu'ils se battent, ils se font défoncer. Enfin, en comics, ça rend bien, mais en film, ça ressemble
à rien. En film, ça aurait été nul. Je pense que ça aurait augmenté le côté cheapos. Et puis, la motivation... Alors, ça m'a déçu. Normalement, la motivation de Thanos à éradiquer les peuples des univers, c'est pas simplement parce qu'il veut l'équilibre, Hakuna Matata, tout ça.
Non, il cherche quelqu'un.
C'est qu'en fait, il veut plaire à la mort. La mort est une entité
ça,
incarnée.
Ça, c'est pas encore échappé, hein. Ça, c'est pas encore...
Alors, c'est pas encore décidé, mais je parle pour l'instant. J'anticipe pas. Est-ce qu'ils vont pas nous faire un mind game derrière? Je vais déjà parler de tel que le film doit être pris maintenant pour les gens qui ne connaissent pas le comics. Parce que moi, c'est toujours ce que je reproche. Quand on me dit « Oui, mais tu comprendrais si t'avais lu le livre, si t'avais vu la BD et tout. » Non, le film, il est ce qu'il est et il fonctionne comme un truc tout seul. Donc pour le moment, je ne peux pas partir sur cette théorie, même si ça peut être séduisant ou autre. Pour le moment, le film me propose une histoire où Thanos, son but, c'est rétablir l'équilibre dans la force. Alors il y a un peu de Star Wars derrière. Hein. Même, il y a beaucoup de gens qui ont comparé Thanos à Darth Vador. Là-dessus, je ne me prononcerai pas.
Oula, ouais.
Mais c'est ce côté un personnage qui décide d'appliquer un mal nécessaire pour une cause qu'il considère comme au-delà de tous les sacrifices que ça demande. Pour simplifier, c'est un peu ça. Et c'est une autre vision que le Thanos un peu romantique qui est présenté dans le comics, qui agit pour les yeux de sa belle. Et qui est complètement gueudin du coup, parce qu'on se rend compte que...
Ouais, là, il est moins fou, là, quand même.
Voilà, et du coup, ça change le personnage, et c'est pas inintéressant.
Bah, par exemple, là, moi, j'ai l'impression que dans le film, tu peux avoir plus d'empathie pour Thanos que dans le comics. Dans le comics, tu peux pas avoir d'empathie pour Thanos.
Bah, parce que c'est vraiment le méchant tranché, il fait ça pour un but égoïste, il fait ça pour lui plaire à la mort, et tout ce que ça peut impliquer pour les autres, il s'en bat les couilles, quoi.
Ouais, c'est... Il a un désir de puissance aussi. Et puis, dans le comics, Thanos est beaucoup plus puissant. De base, il est plus fort que ce qu'il ne l'est dans le film.
Ah oui.
Parce que même sans le gant, Thanos, c'est pas un mec qui se fait laver comme ça. Hein. Là, même avec le gant, ils arrivent à un moment un peu à le maîtriser et compagnie.
Oui, ça serait jamais arrivé.
C'est aussi parce qu'il est désintéressé. En fait, entre guillemets, il s'en bat les couilles d'eux. Il cherche même pas à les tuer non plus, hein.
Non.
Oui, il s'en fout, mais il est quand même, par rapport aux itérations de comics, un peu comme tous les persos d'ailleurs, hein. Ils sont un peu nerfés, quoi.
Oui, oui, oui.
Je me dis que ça, c'est à la fois pour que ça reste réalisable, parce que c'est pas évident de montrer des persos très puissants, et parce qu'il faut que l'histoire, elle puisse être canalisée et durer un petit peu. Le débit que tu as d'une histoire en film n'est pas le même que dans un comics que tu vas lire en 30 minutes montre en main, quoi, 30-40 minutes, selon la vitesse où tu lis. Thanos, pour le resituer, donc en version comics, même si je viens de dire qu'on va quand même se focaliser sur la version du film, mais pour vous montrer la différence, donc il fait partie de la race alien des Titans, qui sont des entités ultra puissantes, qui ont une longévité extrême, limite s'ils ne sont pas immortels. Il est extrêmement intelligent. C'est un esprit sombre, c'est un esprit torturé. J'avais lu notamment dans un comics une espèce d'origin story de Thanos où on explique qu'en fait, il est depuis tout petit, il est vu comme différent par les autres parce qu'il serait déficient génétiquement et que dans le monde super idyllique des Titans où tout le monde est vachement stylé, lui, avec sa gueule toute bleue... Il serait vraiment un paria, c'est le syndrome Naruto, on va dire. Et en fait, lui, ce qu'il y a, c'est qu'il a une intelligence extrême, même pour un titan. Et il se met à avoir des visions. Et en fait, on comprend à la fin que ces visions, cette espèce de psychose, c'est ça l'incarnation de la mort qu'il révère. Et que, entre guillemets, tout est dans sa tête, quoi. Et du coup, il génocide complètement la race des titans. Et c'est l'un des actes qui va lui valoir son surnom de le titan fou.
C'est un peu expliqué dans le film quand, quand avec la pierre de réalité, il montre Titan avant qui était une planète fleurissante et qui d'un seul coup est devenue un désert post-apocalyptique.
Par contre, il dit pas comment la planète Titan.
Il sous-entend que c'est lié au fait que il y a eu une crise avec un manque de ressources parce qu'il y avait une surpopulation. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que si tu connais le comics, tu vas avoir tendance à te dire ouais, en fait c'est lui qui a tout déglingué, et si tu connais pas, t'aurais tendance à croire que il a vu son peuple chuter et c'est ça qui l'a motivé à passer à l'acte. Dans les deux cas, t'as un truc un peu qui se tient et qui fait que le personnage n'a pas des motivations complètement ubuesques.
Et moi, je crois que dans la version du film, ce qu'ils veulent te faire croire, c'est que son peuple a couru lui-même à sa propre perte et que c'est pas lui. Et donc, il a vu l'exemple, donc il veut pas que les gens meurent comme son peuple.
Oui, parce qu'en plus, il parle d'une espèce de lente agonie et que lui, entre guillemets, certes, il va buter plein de gens, mais ça va durer 2 secondes et puis voilà. Il dit,
milliards d'autres derrière, quoi.
Ouais,
c'est un peu le truc Superman aussi, hein. La planète qui meurt, mais les mecs s'en foutent et il y en a qu'un qui survit, quoi.
C'est ça.
Donc du coup, on commence par le début du film.
Alors, on va attaquer effectivement avec le début du film. Donc, nous sommes dans l'espace. Un vaisseau lance un signal de détresse. Et là, apparaît donc un truc digne de Star Wars. Vraiment, au début, je me suis dit, attends, mais c'est un Star Destroyer, ça ? Puis en fait, non, on voit que c'est pas le même genre de design. Donc, le vaisseau qui contient les Asgardiens, les rescapés d'Asgard, est disloqué et en train de se faire assaillir par un vaisseau encore plus grand. Et à l'intérieur, c'est la bagarre, puisqu'on voit Heimdall à terre, on voit Loki un petit peu dans une fâcheuse posture, et puis enfin, après tout ce temps d'attente, arrive Thanos qui se retrouve donc confronté, c'est une péripétie pour lui face à Hulk, et c'est là que commence justement le début du carnage.
La première phrase, le truc que sort Loki, on a un Hulk,
oui.
C'est excellent. Retour à Avenger 1. Quand que Tony Stark lui dit j'ai une armée, on a un Hulk, et que ce soit Loki qui le ressorte, je me suis dit le film il est bien parti déjà.
Ouais, moi aussi. Franchement.
Ça de l'intro est vraiment très, très très forte sur beaucoup de points. Ouais.
Alors l'intro en plus elle a ça d'énorme qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'on a vite fait placer le contexte. On a un truc très choquant parce qu'on quitte Ragnarok, donc le film d'avant, avec un Thor réinventé qui est nouveau seigneur d'Asgard avec son peuple qui se barre. Et pas de bol, en fait, vous êtes les premiers à vous faire défoncer. J'ai trouvé ça assez couillu parce qu'on brise quelque chose qui vient mais juste d'arriver. En fait, si on enchaînait les deux films, on se dit que la fin héroïque de Ragnarok... elle se fait contrebalancer de façon assez violente par le fait que Thanos et ses sbires démontent tout le monde. Hulk se fait déglinguer.
Excuse-moi de te couper, je m'y attendais complètement à ce que, en fait, les gardiens de la galaxie et Thor se croisent dans l'espace pour se friter une première fois contre Thanos. Ça, moi, j'ai... Je l'avais senti, ça. Senti venir.
La fin héroïque de Thor Ragnarok, pour moi, elle n'est pas trop héroïque, parce qu'il y a la Ragnarok, donc tout Asgard est détruit, ils sont obligés de s'enfuir dans l'espace, dans un vaisseau à la con. Donc en fait, pour eux, c'est la galère qui continue, plutôt. Hein.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on te montre un Thor à la fin, quand il conduit le vaisseau et qu'il se dirige vers la Terre, il est plein d'espoir, c'est « on va rebâtir Asgard, on va... » Tu vois, ils sont dans une espèce de hype positif et
surtout, il a éveillé des nouveaux pouvoirs aussi.
Voilà, et c'est là où, nouveau pouvoir, tu te dis, ce Thor-là, il a vaincu Hela, il est presque devenu le père de tout, alors, même si on verra que pas tellement. Et là, on ne voit même pas combattre, on voit qu'il est déjà déglingué par terre avec Thanos qui le trimballe comme une poupée de chiffon, quoi.
Mais c'est ça encore le truc. Ils avaient déjà fait ça dans Avengers 2, j'avais pas aimé. C'est qu'ils avaient, dans Avengers 2, ils avaient envoyé Thor faire une quête. Thor était parti dans son coin, en fait.
Ouais.
Et c'est un truc qui avait été complètement effacé du film, alors que c'était un vrai truc intéressant où Thor allait se renseigner sur le pourquoi du comment, oui, etc. Et on avait notamment des révélations sur les pierres, voilà, exactement. Et là, ils ont fait exactement pareil, la même chose pour cet Avenger. Je me suis dit, putain, encore une fois, Thor, il va être à part des autres, en fait.
Donc, ah, mais là, Thor, il est trop fort.
C'est un peu ça le souci aussi, ouais.
Ouais, mais à un moment, c'est Thanos, l'armée de Thanos. Donc là, tu peux faire quelqu'un de fort, quoi.
Bah, s'il serait là dès le début sur Terre, déjà, est-ce que...
Sans son nouveau marteau? Ouais, il fait un peu d'éclair, ouais.
Il mais peut quand même mettre nouveau... des patates, hein.
Il peut sans son nouveau patates, marteau. Il fait un deux éclairs. Pff,
mais il me semble que sans son nouveau marteau, il est plus fort qu'avec son ancien marteau déjà.
Oui, parce qu'il a ne serait-ce que plus d'expérience en tant que guerrier. Sa force, oui, elle dépend pas du marteau. Il est quand même super fort. Il tient quand même marteaux. Le taf. Quoi.
En fait, Thor, il est pas fort face à Thanos. Mais non. Par rapport à ses sbires. Mais il est quand même trop fort, Thor.
Oui, il est tué.
Ça veut dire que tu l'aurais mis dans le film sur Terre, il y aurait peut-être eu un problème.
Je sais pas, franchement.
Après, ça dépend de comment tu déroules l'histoire, comment tu l'amènes, parce que au final, on va pas parler tout de suite de la fin quand même, mais tu constates que même quand il est full power, ben, y a pas tellement de différence. En fait, c'est pas un game changer. C'est pas le perso. Il arrive et d'un seul coup, la balance de l'équilibre des forces change radicalement. Il vient en renfort, donc il permet de maintenir le rapport de force équitable, mais c'est tout. Il fait pas basculer en faveur des gentils, quoi.
Lui, il était venu pour tuer Thanos, quoi.
Ouais, il est venu. Ouais, mais quand même, dès qu'il arrive, il envoie du lourd.
Ouais, mais il le fait qu'une fois.
Bah, il a balayé tout ce qu'il y avait à balayer, pratiquement.
Non, mais il le fait qu'une fois. Ça veut dire qu'après, le combat continue, et tu dis, bah, pourquoi tu remets pas une grosse patate, mec?
Parce que lui, dans sa tête, il devait tuer Thanos, quoi. C'est trop tard.
Ouais, après, ouais, non, c'est ça. Bah, c'était le seul qui pouvait, en fait. Mm. C'est le seul qui... C'est pour ça qu'il a fait un marteau, quoi. C'est parce que c'était le seul qui pouvait.
Ah, ben, elle a pris un marteau, il pouvait,
oui. Oui, enfin, bon, on sait que dans le comics, le Stormbreaker, c'est à peu près... C'est juste un deuxième Mjolnir, donc... c'est un marteau. Je suis désolé, c'est un marteau.
C'est un marteau H.
Ouais, je crois que c'est ça, c'est plutôt un marteau H.
C'est un marteau H. D'un côté, tu coupes, un autre côté, tu mets des clous.
Ouais. Enfin, ouais, parce que, ouais, bon, on y reviendra quand on y reparlera. Ouais, mais ouais, Stormbreaker, c'est un peu la même autre chose dans le comics, quoi.
C'est, ouais, alors, il y a ça aussi, c'est qu'il y a l'influence comics qui va quand même changer la donne. Alors, je le disais, sur ce premier passage, on a les premiers morts. Et ça aussi, parce que l'une des grandes questions, c'est « Oh mon Dieu, mais qui va mourir ?» Et les gens avançaient timidement, bah, « Il y a un tel qui va mourir, ou il y a un tel. »
Et en fait... Il y a pas tous ceux qui disaient « Tony Stark va mourir. Hein. »
Ouais, voilà, plein de gens disaient ça, mais le pire, c'est qu'en fait, ils parlaient pas de ça d'un point de vue narratif, mais d'un point de vue, Robert Downey Jr. va finir son contrat.
Mais de toute façon, Thanos, c'est le mec, c'est son point, il déchire les contrats, en fait.
Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment
une... Il commence droite, Idris Elba, plus de contrat. Loki, plus de contrat.
Toi, Loki, on sait jamais.
Ouais, il a des clauses.
Il en a marre, Tom Hiddleston, c'est bon.
Tu crois qu'il a des clauses secrètes et tout, Alba?
Mais par contre, Idris Elba, tu lui arrêtes un contrat. Mais le gars, il a même pas parlé beaucoup. Je me souviens. Quand je l'ai revu dans Thor Ragnarok, je ne savais même plus qui c'était.
Non, c'est.
Parce qu'ils l'ont relooké en plus.
Du casting, celle-là.
Franchement, un gars comme Idris Elba. Tout ce qu'il incarne, le bonhomme qu'il est, lui donne pas un rôle où le gars il ouvre juste une porte.
Ah non, mais ça.
Dans Thor 1, il est là. Dans Thor 1, il a une armure de chevalier de Zodiac.
Voilà, stylé et tout le monde le respecte.
Loki, il l'a one shot.
Non, mais faut pas confondre Heimdall, gardien du portail, et Spirou qui ouvre les portes de l'hôtel. C'est quand même pas le même genre, s'il vous plaît.
Non, mais Idris Elba, on l'aurait casté maintenant. Il aurait eu un gros rôle. Genre,
il aurait pas. Ouais, il aurait eu un autre rôle complètement différent.
Ça serait Black Panther, moi.
Bah, il aurait pu faire le daron Black Panther. Tu lui mettais un petit jeune à qui il transmettait le flambeau, ça aurait été génial.
Ouais, voilà. Il aurait un petit Black Panther, genre. Ouais, un peu vieillissant, tu vois, quand même guerrier, mais vieillissant. Mmh. Il se fait tuer par Killmonger et
il transmet
un truc.
Ouais.
Et il transmet à l'autre, là, ok. Mais. À l'époque de Thor 1, Idris Elba, c'est pas Idris Elba d'aujourd'hui.
Oui, c'est sûr.
Donc, Lui, il a déjà pris le casting. Je te rappelle qu'Idris Elba dans le Marvel Studio, c'est pas M'Dal au début, c'est Ghost Rider 2.
C'est vrai.
Voilà, donc le mec a quand même progressé. Maintenant, il
Oui,
mérite mieux, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'il est stylé. Dans Thor 2, il est là, il fait son petit rôle. Dans Thor 3, il est bien marrant. Donc non, moi, il n'y a pas de... C'est sûr qu'il mérite mieux, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est...
il aurait mérité un petit bout de bagarre, parce que c'est Idriss Elba.
Mais
Alors,
après,
moi je dis
le film
scène
fait durer
cachée.
2 heures et demie, hein.
Ouais, voilà, ou sinon dans le Blu-ray.
Moi, je pense qu'il y a une édition Blu-ray qui va nous mettre des petites scènes cachées ou autres,
Ah, c'est sûr,
qui va
mais...
revaloriser le perso. Ou alors du spin-off, comme ils savent en faire. Le perso, il va être réévalué d'une certaine façon, parce que bah, les fans vont réclamer ça. Alors, j'avance sur l'histoire. Donc, on a les premières morts. Donc, Heimdall, Loki, pareil, hein, qui tente des coups de bravoure, mais on se dit, il est con quand même, parce que. Il
Ouais,
veut
il était
mettre un coup
vraiment
de
con. Bah,
schlasse.
en fait, c'est là où tu vois que, en fait, c'est la dernière démonstration que Loki, c'était pas une ordure entière, en fait. Juste avant de le tuer, il te montre que, bah, il tient quand même à son frère, quoi.
Ouais.
Donc, tu
La
te dis,
dernière
ok,
rédemption, ouais.
c'était pas un salaud, et il est mort, c'est bon, il peut être un peu considéré comme un anti-héros, quoi.
Bah, par contre, je sais pas si vous avez eu la même réaction sur la façon dont il le tue. C'est extrêmement sale.
Ah,
C'est bah,
brutal, hein, c'est.
je me
Ouais.
dis, c'est un film pour enfants quand même, mais c'est chaud.
C'est
Bah,
chaud parce
moi.
que il l'étrangle. On le voit bien suffoquer et il a les yeux qui commencent à limite à
Mais il
sortir.
saigne.
C'est pas une mort propre, quoi. Vraiment, il a bien le temps d'agonir avant qu'il lui brise limite la nuque.
Ah ouais, non,
Et.
Disney, ça allonge les billets, hein, pour passer tout public, hein.
Ouais, parce que franchement, moi j'étais avec mon petit neveu de 5 ans, déjà je regardais un peu et je
T'emmener
me
un
disais,
enfant
est-ce
de
qu'il.
5 ans voir ça.
Bah ouais, mais
Mais
les gens, y a pas de
c'est
restriction.
des
Non, mais y a pas de
super-héros,
restriction.
vas-y.
Bah ouais, c'est
Ouais.
ça, en vrai, c'est pour eux, hein.
Bah
Ouais.
oui, et je demande à son père, mais t'es sûr, il a pas peur là? Ou c'est pas trop? Parce que
Ah, c'est
c'était quand même
chaud.
cruel.
C'est ça. En fait, c'est pas la violence physique qui me dérange, c'est l'espèce de cruauté, parce que on sent
Voilà.
que. Thanos, il aurait pu lui mettre une patate, il lui arrache la tête et c'est fini. Mais là, il prend bien le temps de. Ah, t'as voulu me baiser, enfoiré? Bah tiens, vas-y, crève bien lentement devant ton frère.
Ouais, quand Thanos aussi tue la moitié du peuple de Gamora, elle est pas évidente l'image non plus,
Non.
hein.
Mais
Ouais.
elle est, entre guillemets, elle est
Elle est
propre, il n'y a pas de
nécessaire.
violence.
Voilà, il va pas la comprendre comme celle de
C'est ça.
où Loki peut rien faire, Loki. Et il voit pas un dessin animé là, il voit un film,
Non,
il
non,
voit un
c'est ça,
mec
tu
qui est en
vois
train de
vraiment un mec.
suffoquer.
Non, cette scène, elle est quand même chaude.
Et
Bon,
je
il y a
pense
quelqu'un
que
qui arrive quand même à renvoyer Hulk. C'est pas rien.
la scène, elle est là pour dire tout de suite, voilà, dans le film, ça rigole pas, tout le monde va crever.
Ouais.
Le message, c'est vraiment il y a une espèce de méta-message du film, c'est Thanos est sans pitié et le film est sans pitié.
Ah, ça pose le ton.
Mais c'est très bien, en plus,
Mais
c'est tout de suite, comme ça, il n'y a pas de débat. Moi, j'ai juste
moi,
une
quand je l'ai
question.
regardé,
Vas-y,
quand je l'ai
Alban.
vu la deuxième fois, j'avais mon pote à côté et je l'ai regardé. J'ai un pote et je l'ai vu, il a soufflé. Et c'est pour dire que tu vois ça la première fois, tu te dis waouh!
T'es pas bien, hein?
Ils vont loin dès le début. Enfin, quand je te dis ils vont loin, déjà tu regardes du Disney, tu dis non, c'est Disney, ils font pas ça.
Bah comme quoi
Et
maintenant ils peuvent, c'est bien. Moi je trouve que c'est
ouais.
bien qu'ils osent. J'ai une question qui ne nécessite pas forcément de réponse, mais qui moi m'a interpellé et qui m'a été reposée par une amie. C'est mais où est passée la Valkyrie?
Ouais,
Eh
c'est ce
ben
que j'en
moi
pensais
aussi,
aussi, ouais.
c'est ce que je voulais vous demander. Mais moi, ce que je me dis par rapport à elle, mais après là, j'ai vu une deuxième fois, je me suis dit, mais non, c'est pas trop possible. Moi, je pensais qu'elle allait se réfugier avec les Asgardiens sur Terre, un endroit de la Terre.
Bah a priori c'est
Non,
ça.
mais elle était à la fin de Ragnarok, donc
Elle est dans le vaisseau avec
normalement,
eux, hein.
elle devait être dans le vaisseau quelque part, quoi. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il l'ait oublié. Pour moi, elle
Non.
va réapparaître dans la deuxième phase.
Alors moi, j'ai une autre
Bah elle est déjà
question.
sur les trucs promo, donc.
Qui s'en fout?
Moi, je m'en fous pas.
Ah, moi je m'en fous pas non plus, hein.
Parce que
Tessa,
franchement,
Tessa
j'ai aimé son
Thompson.
rôle. Je l'ai trouvé
Tessa
zéro.
Thompson.
Ah oui,
Emma
j'ai
Thompson,
trouvé
c'est une grande, hein.
zéro. Elle m'a gâché. Elle a failli me gâcher Thor Ragnarok, hein. À deux
Oh,
doigts.
oh non, c'est vrai qu'à un moment, elle était lourde. Avec son truc, oui, j'y vais pas, j'ai peur, je suis une alcoolique, oui. Mais une fois qu'elle s'est réveillée, elle a mis son armure. Bah moi, je l'attendais, moi,
Non,
pour
non,
pour
franchement,
cette
non.
phase-là.
En fait, moi, je me suis posé la question et la personne avec qui j'en parlais, on s'est posé cette question. Est-ce que c'est pas le fait que Marvel voulait pas trop déjà perdre de temps avec un perso qu'on a vu un petit peu dans le film d'avant et qui est qui serait hyper compliqué de consacrer du temps à mettre en avant? Et deuxième point, est-ce que jeune femme noire revendiquée lesbienne, ça les emmerdait pas par rapport au petit rôle que ça représentait de miser sur elle?
Bah non, t'as bien le pote homosexuel de Steve Rogers qui est là, il prend ses sous. Non, y a pas de souci. Non, mais en fait, je pense juste qu'il y a déjà 64 persos.
C'est ça, oui.
Évidemment, bon, y en a qui sont passés à la trappe. Bah, elle est passée à la trappe. Moi, je pense qu'elle est morte. Elle s'est fait tuer par un des sorciers de Thanos. Puis c'est fini, quoi.
Et puis en plus, après, il faut apprendre tous les minigames du jeu, tout ça. Trop de persos, c'est trop.
Souvent.
Ouais, moi, j'en peux plus. Moi. 12 persos, ça suffit. Non, mais non, moi, je pense pas qu'elle soit morte. Et puis, normalement, physiquement, je pense pas qu'un simple sorcier, là, les sbires de Thanos, l'auront tué directement.
Oui, ou en tout cas, il y aurait de la bagarre, mais à ce tarif-là, pareil, normalement, Thor, personne le tombe, quoi. Il y a quand même un survivant à ce grand carnage. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'il a récupéré parce que oui, le but de tout ça, quand même, c'est que Thanos voulait récupérer une des gemmes de l'infini, donc il récupère le Tesseract. Oui, c'est le Tesseract.
Oui, c'est ça.
Qui est en fait la gemme de l'espace. Et une fois qu'il a ça, il peut TP partout, il est super content. Donc, il blast le vaisseau.
Mettre les gens dans des boîtes.
Et il s'en va. Et malgré tout, alors il y a quand même quelqu'un qui s'en sort, même si on se doute que Thor va pouvoir se relever de ça. C'est Hulk. Alors, Hulk qui s'est fait humilier par un Thanos très punch-out. Je ne sais pas si ça vous a fait cette impression.
Oui, c'était du pugilat.
Il a complètement outboxé.
Et il y a quand même un gros coup de genou. Hein.
Un pied-point, quoi.
Moi, j'ai cru à un moment qu'il allait lui casser les bras.
Ouais.
À un moment, il le met dans une prise. Je me suis dit adieu à tes bras, Banner.
T'aurais été fort. Il y a un truc aussi que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que en fait, Thanos, il se bat contre Hulk sur son propre terrain, c'est-à-dire la force, mais en même temps qu'il utilise la technique, parce que tu vois qu'il est fin dans sa boxe.
Oui, mais c'est, il a une garde, il place des crochets, il s'est vraiment punché.
Ah, il n'est pas rentré en frontal. Non, franchement, c'était bien chorégraphié. Ça ne faisait pas chauffer en termes d'effets spéciaux.
Ouais.
Non, et puis, Hulk, il s'est tellement fait humilier qu'on l'a plus vu du film, malgré la bande-annonce qui nous promettait du smash. Hein.
Alors, du coup, Hulk est sauvé par Heimdall qui, après qu'il se soit fait casser la gueule, réussit à invoquer une dernière fois le Bifrost pour le TP sur Terre.
Heimdall, il a complètement entendu Saori. Hein.
C'est vrai.
Il a complètement entendu Saori.
Oui, parce qu'il y a... en fait, il en appelle à...
Le pouvoir maléfique, carrément. Il dit... Je crois que c'est la magie noire.
Ouais, il en appelle à la magie noire... c'est la magie de... Comment ça s'appelle ?
D'Odin.
Ouais, voilà, mais Odin, c'est pas un personnage complètement positif. Il a une part de magie obscure en lui.
Clairement pas Odin.
Odin, c'est de la sorcellerie, c'est quand même des trucs un peu chelous. Il a plein d'aspects maléfiques, mais c'est un tout, c'est un équilibre. Et donc, là, il en appelle à cette partie vraiment bizarroïde pour altérer la réalité et en appeler au Bifrost, quoi.
Ah, donc, ça permet de renvoyer Hulk sur Terre, quoi.
Hulk est renvoyé sur Terre chez Doctor Strange. Alors, ça nous permet une petite intro en mode kikoulol avec Strange et Wong.
Wong top tier, hein.
Wong top tier, surtout qu'il apparaît ultra peu, mais le peu qu'il apparaît, il met des puntos.
Mais l'acteur est très bon, surtout, quoi. Donc, Benedict Wong, c'est un très bon.
La blague du sandwich, elle est là. Non, franchement, on commence bien, et puis après, c'est bien de commencer avec Doctor Strange, parce que c'est lui qui était le plus au front sur Terre, en tout cas sur Thanos. Donc, c'est bien de commencer par lui.
Puis c'est un des gardiens d'une gemme. Il a plus la vision d'ensemble de ce que c'est qu'une menace cosmique.
Moi, je le vois en quoi, lui? Je le vois en Piccolo, moi. Celui qui réfléchit le plus.
Oh.
Le plus posé.
C'est celui qui a le plus
de magicien.
Voilà, le Piccolo, le mec qui va pas foncer forcément tête baissée, qui connaît un peu les légendes, connaît l'histoire, tu vois, le Shiryu un peu aussi.
Bah, le mec qui tire sa force aussi du fait que il a une entre guillemets une culture de son univers, quoi. Il sait voilà. Ce qui se passe et il fait pas nimp. Alors ça nous donne une transition avec une scène un peu plop, j'ai trouvé, où il y a donc Tony Stark et Pepper Potts qui sont en mode « mais on va se marier, on va se faire des bisous, machin. Oh non, il faut que tu arrêtes de mettre des trucs d'armure, tu t'es refait un plastron. »
Oui, mais justement, ça place déjà le mind game de « on va avoir un enfant. » Et attention, dans un film, quand tu vas avoir un enfant, tu vas clamser.
c'est un message de mort en général. Ouais.
Moi, j'aimerais bien qu'il clampe celui.
Là, t'es là, Tony Stark, attention, il trouve l'amour, il va se marier, il va avoir un enfant, tout va bien pour lui. Quand tout va bien pour lui, ça fait 10 ans que t'as un contrat.
Et puis en plus, il prend le plus gros billet.
Ah, il y a que Tony Stark pour, il a survécu Avengers 3. Est-ce qu'il va survivre Avengers 4? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, il a survécu déjà le 3, c'est beau.
Enfin, il survit, il faut voir dans quel état. Alors, Strange rencontre Stark avec Banner, donc ils se retrouvent parce que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Ça permet de replacer les bails comme quoi ils sont en froid avec Captain et puis ce que j'ai appelé les Rogue Avengers. Petit pétage de plomb de Stark quand il réalise que c'est Thanos la menace et lui ça fait 10 ans qu'il est trauma à cause de ce qui s'est passé à New York. Du coup bim, comme c'est pratique, les sbires de Thanos arrivent à ce moment là pour attaquer New York. Ouais, donc y a un lien entre le trauma et puis
mais c'est toujours New York de toute façon.
Ouais, par contre moi j'ai trouvé que la scène là elle s'est passée trop vite en fait. Il n'y a pas eu assez de transition. C'est vraiment, ils sont ensemble, ils parlent et les méchants, ils arrivent direct.
Bah, c'est limite un plan séquence, il me semble, puisqu'ils sont, dans le... Alors, je sais plus si c'est un manoir ou quoi de Strange. Ils commencent à avoir des secousses, un bruit de bzzz. Ils vont voir dehors, donc on voit Stark qui sort de la maison, qui fait 20 mètres pour aller à l'angle de la rue. Et là, il voit qu'il y a des trucs qui volent, des blasts et tout. Et c'est au niveau mise en scène, c'est limite du caméra à l'épaule, ça rend pas mal. Il y a beaucoup d'intentions de caméra comme ça où ils essayent de mettre des trucs pour que ça ait un peu plus de gueule. Le problème, c'est que des fois, c'est un peu gratos.
Là, c'est parti vite, hein, je trouve.
Ouais, alors du coup, ça attaque direct et un nouveau perso se rajoute à tout ça, c'est Spider-Man qui fait. Qui
a une très bonne blague d'entrée.
Ouais.
Il demande à son pote de faire la diversion. Son pote, il est tellement con qu'il arrive.
Il dit littéralement : oh mon dieu, on va tous crever.
Mais en fait, c'est vrai.
Oui.
Moi, c'est la deuxième fois que j'ai compris. En fait, c'est même plus une diversion, ça. C'est que vous allez crever, les gars.
C'est rendu compte de rien. Et le petit caméo de Stan Lee à ce moment-là, j'ai bien aimé sa blague aussi. Puisqu'il sort, attendez, c'est la première fois que vous êtes à New York, c'est la première fois que vous voyez un monstre géant.
Non, c'est la première fois que vous voyez un vaisseau spatial.
Donc, bon,
alors que pas vraiment, ouais.
Et c'est peut-être là le seul mauvais fixe du film, c'est Spider-Man qui passe sur l'eau. C'est assez moyen, je trouve, alors que Homecoming était plutôt propre sur ce côté-là.
Ouais. Mais il y a d'autres éléments de FX qui m'ont gêné, moi. Autre part dans le film, on en reparlera, mais je pense que ça vaudra le coup de voir si sur une version DVD Blu-ray, ils ont corrigé ça, parce qu'il y a des trucs, ça fait un peu sorti dans l'urgence, je trouve.
Ça existe, hein.
J'ai qu'une main dit, c'est ça.
Les DVD ?
De quoi, pardon ?
Non, j'ai demandé, ça existe encore, les DVD ?
Ah, bien sûr, hein, monsieur. Moi, tous les films que j'adore, j'ai acheté encore en Blu-ray. Hein.
Oui, Blu-ray.
Moi,
oui.
J'ai des VHS. Hein.
DVD, ça existe encore aussi, même. Ouais.
Je prends les DVD, oui, moi aussi, les films que j'aime bien, je les achète, je les ai en Blu-ray. Je les ai même pas sur Netflix.
Oui, non.
Mais quand
ça sortira, DVD, ça existe encore. Hein.
Le Ultra Blu-ray, machin, mes fesses, tu vas dire, ça existe encore le Blu-ray.
Bah oui.
Et donc, tu recycleras une blague qui existe depuis l'extinction de la VHS.
Bah oui, j'avais déjà dit, ça existe encore la VHS.
Le mec.
Ça existe encore les souvenirs.
Alors New York est attaqué, c'est le chaos. Bien évidemment, les méchants veulent l'œil d'Agamotto, qui est en fait une des gemmes de l'infini. Combat, Spider-Man, Strange, Wong et Iron Man avec sa nouvelle armure. Là, c'est même plus des trucs Transformers.
C'est plus une armure.
Là, c'est Power Rangers.
Ah, c'est ce qui ressemble le plus à l'armure Extremis.
C'est ça.
Lourd. Voilà, Nanomachine Son, exactement. Les lois de la nature. Franchement, non. C'est peut-être la meilleure armure de Tony parce qu'elle est complètement modulable. On le voit à un moment, il fonce pour attraper le vaisseau. Ses pieds se rejoignent, ça fait une fusée.
Ouais.
Je pense que c'est d'ailleurs le film le plus solide en termes de scène d'action d'Iron Man.
Oui,
ouais, bien possible, ouais.
Notamment parce qu'il a beaucoup. Et il y a le photon canon.
Il a le photon canon, il a le bouclier. En fait, il peut moduler son armure avec les nanomachines. Et non, franchement, impressionnant.
Non, c'est impressionnant.
Gros team-up aussi de Strange et Wong.
Ouais, ils font leur pouvoir à base de mouvements chelous qu'ils font Naruto.
Ils se font une petite séquence de portal à un moment donné.
Ouais, ah oui, avec Spider-Man, c'est bien stylé ça d'ailleurs.
Alors, c'est plus loin, mais avec... en fait, quand il y a.
Ah oui, c'est avec Thanos, ouais.
Quand... Donc, le méchant télépathe, c'est Mo, je crois,
ouais.
Qui balance. Alors, ça, c'est stylé, puisqu'en fait, on voit qu'il arrache des plaques de béton. Et on se dit, il va les balancer comme ça en bourrin. Non, non. En fait, avant, il les déforme pour en faire des pointes.
Ce qui
en soi ne sert à rien, mais est extrêmement stylé. Et donc, pour contrer ça, Strange en fait fait un portail où ça s'engouffre et Wong fait un portail où ça ressort pour lui renvoyer sur la gueule.
Synergie.
Ah, les mecs, ils ont taffé les.
En fait, ils ont taffé les combos.
Les setups, ils ont taffé les setups. Voilà.
Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça appliqué aussi lourdement, quoi. Il y avait déjà eu
Thor avec Captain America à coup du bouclier.
Non, c'est Iron Man. C'est...
Non, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là.
Iron Man et Captain, quand Iron Man, il tire sur le bouclier de Captain.
Oui, ça fait, ouais.
Oui, il y a ça aussi.
T'avais ça aussi dans Iron Man 2, quand War Machine et Iron Man team up pour déglinguer toutes les armures. Mais bon, comme c'est dans la même licence, tu vois, tu fais, bon, est-ce que c'est
vraiment... Ouais, c'est quand c'est du crossover que c'est lourd.
Ouais. Oui, non, mais c'est ça qui est génial, c'est que tu mélanges la magie, tu as Spider-Man qui saute partout. Alors du coup, ils finissent cet affrontement-là et puis les méchants arrivent quand même à kidnapper Strange pour lui extraire la pierre puisqu'il la protège limite même inconsciemment, quoi.
Ouais, il y a un maléfice dessus, en fait.
Voilà, oui, quand il essaie de la toucher, ça lui envoie une grosse bombe dans la gueule.
Et lui dit, de toute façon, même mort, ça sera encore pire.
Oui, non, et j'aime beaucoup quand il lui fait, tu vois, c'est les trucs les plus simples, les plus casse-couilles.
Ouais, parce qu'il l'a traité de magicien de je sais pas quoi.
Oui, genre, t'es un magicien d'anniversaire, quoi.
Ouais, et moi, le truc qui m'a fait sourire aussi, c'est que quand je l'ai vu, et les deux fois, t'entendais des gens, non, on dirait Voldemort, le méchant.
Oui.
Mais même, comment il s'appelle Tony Iron Stark, Man, lui dit.
C'est quoi la blague en anglais d'ailleurs?
Il dit qu'il ressemble à Carlo le Calamar.
Ouais,
ce qui était mieux en anglais, quoi, mais bon.
Ouais,
je connais pas ce truc Calamar.
C'est dans Bob l'éponge.
En fait, il dit Squidward.
Ah. C'est Bob l'éponge, celui qui aime pas Bob l'éponge.
Ouais, je suis jamais arrivé avec Bob l'éponge. Donc moi, ça m'aurait échappé, donc cette version-là, elle est mieux pour moi.
Ouais,
gros trou dans ta culture, Albin.
Gros trou dans ta culture. Bob l'éponge, arrêtez les gars.
Franchement, c'était mieux Voldemort, parce que c'est un sorcier. Qui veut tout le monde et qui n'a pas de nez, quoi.
Mais cela dit, le fait de faire une référence enfantine, ça montre le mental de celui qui dit ça.
Ouais.
Et je pense que ça change quand même le... Quand tu fais une référence comme ça, ça change la donne. Alors, on parle des pics qui sont envoyés sur le méchant, mais il y a un truc qui est cool aussi, c'est les pics que se font Stark et Strange.
Ouais. Grosse synergie.
Et qui en plus sont une espèce de reflet l'un de l'autre.
Ah bah là, on aurait pu incarner l'autre. Hein.
C'est ça.
C'est deux mecs, les deux gars, c'est des mecs de l'UMP, je t'ai dit. C'est deux capitalistes. C'est deux capitalistes qui veulent faire que du fric. Ces gars-là, ils sont en vue de leur personne.
Pas Dr. Strange, voyons.
Oui, il a changé.
Dr. Strange, c'est un puriste de l'art.
Bah non, Dr. Strange, il aime l'argent aussi. Hein.
Il aime
la belle vie. Non, mais ça, tu peux pas lui reprocher.
Il a même dit à l'autre, t'as même pas d'argent.
C'est un mec. Tu peux pas dire ça à Tony Stark.
C'est les républicains, bah, déjà.
Ouais, les républicains, ou je sais pas si c'est pas les gars de Macron, là, en mars.
C'est une rencontre qu'on attendait depuis un moment, parce que les deux auraient pu incarner le rôle de l'autre.
Ouais.
Cumberbatch aurait pu faire Iron Man, et bien sûr que Robert Downey Jr. aurait fait un Doctor Strange complètement fou aussi.
C'est vrai.
Donc, non, c'est bien. Et puis surtout, le film, ce qu'il arrive bien à faire avec tout ça, c'est conjuguer les différents univers qu'avait mis Marvel, l'univers super-héros, l'univers cosmique et l'univers magique. Et quand ils se rencontrent les trois, eh ben, ça colle, quoi.
Ça colle bien, oui.
Ouais.
Ça colle direct. Les persos, ils sortent pas... Ils ont pas l'air d'être collés, en fait, juste avec un truc. C'est, ils sont... Il y a une espèce... C'est organique.
Mais t'as le sentiment que cet univers, il a du sens.
C'est ça.
Ouais, complètement.
T'es complètement dans la jazz-age du film.
Jazz, oui.
La jazz-age du film... J'ai raison, vous avez tort. Hein.
Ah ouais, tu veux employer des termes comme extradigétique.
Il y a une dichotomie.
Attends, on va se prendre un copyright infringement.
Alors, je tiens à dire qu'il y a une vraie dichotomie entre entre Strange et
La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est en cours de BTS communication.
Je disais donc, il y a une vraie dichotomie entre les deux, puisqu'ils sont les deux extrêmes de cet univers, à savoir l'ultra-technologie d'un côté et l'ultra-magie de l'autre. En fait, vous pouvez placer n'importe quel personnage de l'univers entre les deux, selon qu'il est plus ou moins orienté magie ou technologie.
Alors, c'est lequel le plus fort ?
Il n'y a pas de plus fort, ils sont aux deux extrêmes, les deux polarités se valent, c'est juste qu'elles ne sont pas appliquées par les mêmes moyens.
C'est deux experts dans leur domaine.
Moi aussi, je dis c'est Doctor Strange, même si je fais du hors-sujet.
Bah, disons que par rapport à manipuler le temps, c'est vrai que les blasts et l'armure, ça a ses limites, on ne va pas se mentir. Alors, du coup, je disais... On a Strange qui se fait enlever par les méchants Legacy le disait, Iron Man se lance à sa poursuite avec sa turbo-roquette de fusion pédestre. Quand
même... ouais. Excuse-moi, mais j'ai quand même trouvé que c'était trop facile d'embarquer Doctor Strange, là.
Dans quel sens ?
En fait...
parce qu'il doit l'embarquer pour récupérer sa pierre.
Oui, non, mais en fait, il n'a pas donné assez de résistance, j'avais l'impression. Ou bien l'ennemi était trop fort, là.
Les mecs, ils sont balèzes, hein.
C'est les généraux de Thanos, quand
même. Ils ont affaire à l'autre, qui est un putain de télépathe, qui est déjà une plaie tout seul. Et il est avec l'espèce de gros balèze, je ne me rappelle pas son nom, qui déglingue tout et qui est super dangereux. Il faut le gérer, parce que, OK, il faut
lui, sauver... Il a été géré rapidement, lui.
Il a pas été géré si facilement que ça. Hein.
Ah, il s'est retrouvé dans le pôle Nord, mais sinon, ça va, il était pas facile. En plus, on a Banner qui commence à avoir un trouble, qui peut plus sortir Hulk parce que Hulk se chie dessus.
Ah oui, c'est vrai, putain, on a oublié qu'il y avait Hulk.
De toute façon, pas dit que Hulk il aurait dégommé non plus, lui. Hein.
Non, mais enfin, il aurait quand même pu foutre un petit coup de patte.
Si, je pense que Hulk il lave le gros port. Par contre, faut qu'on accélère parce qu'on est qu'au début du film. Hein.
On est qu'au début du film et on a déjà. Je vous rassure, ça va quand même s'accélérer. Alors, on a le premier changement d'équipe qui se fait avec le retour sur Vision et Scarlet Witch qui se font des bisous, qui se mettent
pire
bien.
Pire partie du film.
Leur romance, elle est nécessaire parce que déjà, elle existe dans le comics et je pense qu'ils ont voulu respecter
j'adore, ça. J'adore ces histoires-là. Un androïde qui veut devenir humain. Qui tombe amoureux d'une femme, c'est un thème, j'adore ça, c'était dans Star Trek Next Generation, chose que j'adore. Mais ça, c'est le seul truc qui pue la merde dans ce film.
Ça a pris
Elizabeth Olsen, c'est une actrice qui est nulle.
De toute façon, elle ne veut pas faire son film tout seul.
Elle peut pas porter un film toute seule.
Pourtant, ils lui ont proposé. Hein.
Ils lui ont proposé et c'est possible, ou c'est une bonne idée, on va plus se dire comme ça, il y a une différence.
Ouais, non, franchement, pire partie du film, mais ça permet un des meilleures entrées en scène.
Alors, je pense que tu parles de l'arrivée de Cap.
Moi, j'ai gueulé dans la salle, j'étais tout seul. Hein.
Mais comment c'est que tu étais tout seul dans une salle à regarder?
Non, il était tout seul à gueuler.
Tout seul, j'ai gueulé, il y avait 400 blancs qui ont eu peur d'un coup.
Alors, oui, parce que donc on a Vision et Scarlet Witch qui se font attaquer par les sbires de Thanos, puisqu'ils veulent la gemme de Vision. Et alors moi, je sais pas vous, mais j'ai sursauté de ouf quand l'attaque commence, parce qu'on est dans un moment très ouin ouin fleur bleue et je te dis des trucs super jolis nanana. Et puis tu le vois venir de nulle part, l'autre il se prend un gros stab dans le dos qui lui traverse la poitrine.
Moi je suis surpris sentais... parce que je regardais si vous regardez le film, il y a la fenêtre, il y a marqué ici on deep fry vos kebabs. Et j'étais en train de penser donc un kebab. Et les mecs font leur kebab et ils le mettent dans l'huile chaude. Bon, c'est des monstres, ces gens-là.
Apparemment, c'est super populaire.
Non, mais c'est des
du
monstres.
Du fried kebab.
Mais je savais déjà qu'ils faisaient du deep fried de sneakers.
Ouais. Oui, je sais.
Et mettre dans l'huile.
Il paraît que c'est bon, ça, par contre.
Mais vous êtes des monstres.
Et donc, toi, ça t'a alerté sur le fait qu'il allait se passer quelque chose.
Ah non, je me suis juste dit... J'ai été surpris aussi parce que je me concentrais sur les kebabs grillés. Comment on dit les kebabs...
Shawarma
à l'huile. Ouais, kebab à l'huile, frit. C'est d'accord. Kebab frit.
Ah, mais moi
tu viens, que tu viens de changer ma vision du film, là. Hein.
Bah, tu regarderas cette scène, de toute façon, ça fait que l'améliorer. Moi, tu verras le panneau.
D'accord.
L'Écosse.
L'autre pays de l'huile bouillie.
Bah moi, ouais, j'ai le décor, moi, j'ai trouvé beau, par contre.
Ah oui, les plans sont beaux. Édimbourg, c'est une super ville.
Mais pour ma part, moi, j'ai pas été surpris, parce qu'en fait, l'ambiance, ce que tu vois des deux protagonistes,
ouais,
c'est tellement calme que tu sais qu'ils vont se faire attaquer.
Oui, tu sais qu'il va y avoir quelque chose.
Tu le sens.
Tu t'attends pas, enfin moi en tout cas je ne m'attendais pas, je vais arrêter de parler à la place des autres, je ne m'attendais pas à ce que ça soit en plein milieu, tu sais ils sont en train de se parler, bam, il prend un stab.
Ah non, moi je l'ai senti, moi la seule chose qui m'a dérangé c'est le peu de résistance de vision, ok ils l'ont frappé avant, enfin j'allais dire un mot grave en plus, je sais pas si tu l'enregistres ou pas, technique d'arabe, voilà.
Alors normalement pour ces citations là il faut que j'ai la validation de la street. Donc que dit
c'est bon,
la street,
c'est bon, la street valide.
La street valide, donc voilà, vous pouvez tenir ce genre de propos. Non mais comme on a plein de minorités autour de cette table, je me permets de faire valider, puisqu'il paraît que c'est comme ça que ça marche maintenant.
C'est de l'appropriation culturelle, fais attention. Hein.
Non mais je suis un noir, c'est moi qui le dis, c'est bon, ça va. Bon. C'est nous les plus en galère dans le monde, on a dû nous faire un film pour faire croire qu'on arrive à être fort à un endroit.
Que vous aviez une technologie. Mais non, on verra ça quand on reparlera du Wakanda. Alors du coup, ils se font attaquer, c'est terrible, mais ils sont sauvés par Captain America. Alors c'est vrai que c'est une arrivée... enfin, c'est une arrivée de shonen. C'est littéralement une arrivée de shonen.
Il y avait Yusei Run quand il arrivait. Hein.
Mais moi aussi, j'ai un problème avec cette scène.
Comment tu peux avoir un problème avec cette scène, ouais.
Moi, j'ai un problème. Moi, je le vois comment. Et je l'ai dit à Flashou tout à l'heure. C'est comme si Son Goku et Vegeta, ils se faisaient malmener. Puis t'as Tenshin Han, Yamcha et Krillin qui vont faire les autres.
Mais t'es un malade ou quoi?
Mais non, je suis pas malade.
Captain, c'est Beerus.
Attendez, vous avez lu le comics un peu?
Mais ouais, mais...
Vous avez lu jusqu'au moi. Est-ce que ces trois types qui sont arrivés, surtout le mec avec les ailes, là, le noir random, là, c'est l'outier, lui. C'est l'outier.
Oh là là, fais attention.
Mais non, mais déjà, Captain, c'est pas l'outier. Déjà de base. Et en plus, il a entraîné Faucon pendant toutes ces années. Donc, Faucon a atteint un niveau au moins équivalent à Captain.
Mais non, c'est impossible, mon ami. Captain, c'est le surhumain.
Mais Captain, en plus, il a développé le skill Beubar, quoi. Toujours pareil, je parle avec l'accréditation de la street, mais là il est en mode full algérien, quoi.
Mais le problème, c'est que il s'est devenu un terroriste, il lui fout une barbe et il dit non, gars. Pourquoi même ça m'a gêné.
Ça t'a gêné de voir
parce qu'il est en mode rogue, il est en mode.
Mais oui, c'est des bandits.
Il a renié l'Amérique. Donc quand t'as renié l'Amérique, t'as un look de renégat. Le look de renégat, c'est une barbe.
D'accord, mais même t'as une barbe. Tu viens pas comme ça, sauf vous, ils sont Goku. C'est 17 et c'est 18, si tu veux, même. Ou je sais pas qui.
Ah, c'est 18, c'est Scarjo.
Pour moi, ils étaient pas au niveau. En fait, surtout, les méchants, là, ils sont vraiment forts.
Ouais, mais c'est Captain.
C'était pas
Captain,
crédible.
Captain, il arrête un coup de poing de Thanos. Il te faut quoi?
C'était pas crédible.
Moi, ça, tu vois, c'est du racisme anti-blanc, ce que tu fais. Tout ça parce que l'autre, il a pas les pouvoirs de la panthère, il pourrait pas se battre. Bah, moi, tu vois, je suis choqué que tu dises ça.
Non, non c'est pas ça. Regarde. Vision et sa copine, ils sont mais à des... ils sont beaucoup plus forts que ces
trois-là.
Oui,
mais ils ont été pris par surprise.
Et de la même manière, les méchants, quand ils se font attaquer par team Avenger Rogue, bah, finalement, ils ne les ont pas vus venir, donc ils arrivent à se faire déstabiliser et à être mal, et à être mis à mal.
Moi,
c'est moi, je trouve que c'est pas crédible. Quand t'es tellement fort comme ça, on peut même pas te surprendre. Enfin, même t'es surpris, tu pars pas.
Oui, bon, il y a un truc qui s'appelle le scénario.
Et le scénario, justement, il va continuer.
Je suis pas d'accord. Voilà, on s'arrête là.
Alors, on a quand même noté que l'arrivée de cette Team Rogue, elle était très intense. Le combat en lui-même, sans même parler de ses rebondissements, il est très très beau. Ça bouge, ça bouge.
Le système Avengers.
Et ouais, justement, le thème Avengers, moi, ça m'a fait plaisir de l'entendre parce que jusque-là, je trouvais que la musique était un peu en dessous. Il n'y avait pas d'éléments forts, de trucs qui te restent en tête. C'est l'un de vous, je crois, qui avait fait tourner une vidéo sur notre Discord où ça parle de pourquoi la musique ne fonctionne pas dans les Marvel.
Ouais, c'est sûr.
Ah,
ouais.
Peut-être, mais de toute façon, oui, Marvel ont toujours eu un problème. À part Iron Man 1. C'est le seul Iron Man c'est le seul film Marvel qui a une vraie musique qui reste, qui est bonne, parce que c'est fait par Ramin Djawadi, donc le mec qui fait musique de Game of Thrones, il a fait quoi aussi récemment, Pacific Rim, le premier, pas le deuxième qui n'existe pas. Donc c'était le seul Marvel qui avait une vraie identité musicale.
À part Avenger.
Blackwell.
Avenger a une vraie identité musicale. Il a un thème, le thème que tu peux fredonner, que tu peux retenir.
Ouais, et ça, mais tout le reste c'était assez
moyen. Le thème des euros là.
Ouais, c'est ça.
Le truc qui fait drapeau américain, tout ça.
Ouais, mais c'est ça les Avengers.
Ça marche.
Ouais.
Ça marche totalement.
Avengers de la côte ouest, la côte est, quoi. Mais voilà, donc il y a ce thème là, mais sinon il n'y a aucun thème en 21 films que tu retiens à part ces deux films là, quoi.
Black Panther a quand même très bonne musique.
Il y a des bonnes musiques, mais il n'y a pas de thème en tant que tel.
Il
y a des motifs musicaux. Il y a des motifs musicaux si tu veux, mais il y a pas. Si je te dis fredonne-moi l'air de Black Panther, ça va être compliqué.
Mais justement, je peux te le fredonner, mais bon.
Ouais, mais, parce que
mais justement, c'est le thème que t'entends quand tu vois Black Panther.
Oui.
Quand il fait son entrée dans le film. Ouais.
Transition musicale, justement, c'est pour ça que j'en parlais à ce moment-là, que c'était important la musique, que enfin ça se réveille, parce qu'on a droit à une transition de... On change encore d'endroit, de lieu et de groupe de personnes, et on arrive sur les Gardiens de la Galaxie avec, justement, le genre de musique où on se dit, ok, on est vraiment dans les Gardiens de la Galaxie, et on retrouve Thor qui s'est fait récupérer par la team de bras cassés, et qui leur révèle tout le plot de Thanos. Et donc, ils se disent, haha, on va aller le tartiner.
Et donc, peut-être le moment où il y a trop de blagues du film. Ça va, c'était en fait... bien. Mais je pense que si je le revois, je vais me dire, c'est un peu lourd. Mais ça va, c'est bien équilibré.
C'est surtout Gardius, quoi. C'est des blagues qui se moquent du personnage donc, de Peter Quill. Puisque en fait on le compare à Thor, en fait ils ont récupéré Thor et il y a Drax qui fait oh, putain mais quel enfin je parodie mais oh, quel beau gosse putain il est méga balèze il est ultra
viril. C'est surtout la meuf qui lui dit oui il a des muscles saillants ils sont super solides
alors que toi t'es tout fatou
mais ça c'est
un sandwich de devenir gros
mais ouais, voilà. Ah ça c'est une meilleure vanne du monde. Obèse, il dit obèse, il dit même pas gros.
C'est un kilo de devenir obèse. Mais le truc, c'est que dans cette scène-là, on voit un truc qui a fait chier Chris Hemsworth, c'est qu'ils ont complètement détruit le Thor Ragnarok.
Ah oui.
L'humour, c'est plus le même. Il lui redonne un œil juste après. Il a complètement changé de personnalité. Thor, j'ai l'impression qu'il est limite schizophrène. Hein.
Ouais, parce qu'au début, quand il est arrivé, Thor, c'était le mec trop sérieux, même. Le gars, il parlait au passé simple.
Il a toujours eu un peu d'autodérision. Même dans Thor 1, il y a un peu d'autodérision.
Mais il le faisait pas exprès.
Il le faisait... d'où l'autodérision.
Voilà.
Mais la dérision qui se prenait. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être le perso le plus inconsistant, quoi. Surtout avec le 3 totalement. qui était.
Est-ce que c'est pas lié au fait que le personnage de Thor a pas arrêté de changer de main?
Ben non, parce que regarde, Iron Man, c'est pas à chaque fois c'est un mec différent qui dirige.
Non.
C'est Robert, quoi.
Tu as les deux premiers, c'est Jon Favreau, et dans le dernier, alors c'est Shane Black, et du coup le personnage change énormément.
Il y a Avengers, Spider-Man, Civil War, cet Avenger là. Tony, c'est Tony.
Ouais, mais Jon Favreau est toujours dans la production et c'est Robert Downey Jr. qui canalise le truc.
Oui, j'ai l'impression qu'il est plus facilement, il est mieux écrit et il est. En fait, le cahier des charges de Iron Man, il est plus solide.
Ouais, parce qu'il est basé sur la personnalité de Robert Downey Jr. Là où Chris Hemsworth, il doit. Et c'est un rôle, c'est pas lui.
C'est ça, mais c'est, bon, du coup, ouais. Ça fait que Thor, bah, c'est un perso un peu. Il a un peu du mal à être fixé, quoi.
Justement, c'est compliqué, justement, moi, dans Ragnarok, ouais. Dans Ragnarok, je pensais que, justement, que là, Chris Hemsworth, c'était vraiment la personnalité de Chris Hemsworth. Mmh. C'est un mec super drôle. Et justement, dans Ragnarok, pour moi, c'était parfait, quoi. C'était le Thor qu'il fallait.
Ouais, moi, j'ai pas aimé ce Thor-là, moi.
Ah non, il est au top. Mais, de toute façon, Chris Hemsworth, s'il allait voir les frères Russo, il leur a dit, voilà, Thor, il est comme ça, maintenant, on le garde comme ça. Ce que j'ai fait avec machin, je veux le garder. Eux, ils ont fait non, on a notre propre Thor.
On a notre cahier des charges et ferme ta gueule.
On a notre scénario, on a notre vision. Tu récupères ton œil, ferme ta gueule.
Sinon, tu récupères tes cheveux.
Hein.
Tu choisis.
Et même pour l'œil, comment il est inséré.
Mais ouais, c'est le cas de l'œil.
Moi, j'ai bien aimé comment il a été placé parce que c'est les gardiens de la galaxie, c'est vraiment leur environnement où c'est du n'importe quoi. Il n'aurait pas pu mettre l'œil de la même manière s'il avait été avec les Avengers.
Ah bah non, mais ça aurait... C'est ça aussi qui domine, c'est que tu es dans un segment ou Avengers, ou Gardiens de la Galaxie, ou Iron Man, entre guillemets, et en fait, tu subis les règles de ces films-là.
Voilà.
Mais du coup, tu n'es jamais dans Thor, ou très peu. Mm.
Et c'est, il n'y a pas eu Thor, il est passager dans le film.
C'est ça, il subit beaucoup, hein. Il se fait trimballer...
Alors, non, c'est lui qui trimballe les gens.
Pour en revenir à notre histoire, donc les gardiens qui tombent sur Thor, suite à ça, vont splitter en deux teams. Donc une team qui va accompagner Thor pour récupérer une nouvelle arme, donc le fameux Stormbreaker, qui va lui ramener son pouvoir et qui est sans doute la seule façon qu'il aura de tuer Thanos. Et puis les autres qui vont aller voir le collectionneur pour essayer d'intercepter Thanos avant qu'il récupère l'une des gemmes, je sais plus laquelle, qu'il la avait réalité. En sa possession. Réalité.
Alors oui. Là, c'est une super scène parce que ça permet. Ils ont réussi d'éviter de tomber dans un écueil que tombent souvent les films, les jeux, les livres, tout ça. C'est les héros qui voyagent pour rattraper quelqu'un
et qui arrivent au moment
où l'action se dénoue.
Mmh. Ouais.
Là, tu vois, ils arrivent et moi, je me suis dit, putain, encore un de ces moments où ils arrivent. Pile poil au bon moment, alors qu'ils voyagent dans l'espace, c'est hyper loin, et compagnie. Mmh. Et en fait, ils arrivent à retourner le truc que Thanos, en fait, il était là, il avait un coca frite, il les attendait, et dès qu'il les a entendus arriver, il a activé un coup de pierre de réalité, et ça, c'était hyper bien fait, parce que du coup, ça permet de retourner ce cliché, en fait. Moi, j'aime bien quand les clichés se font désamorcer, renversés, et ça, c'était vraiment bien fait. Quand on dit ces films, souvent, c'est la facilité, truc, compagnie. Ben, c'est rare de voir des clichés comme ça dans lesquels tu peux tomber, parce que c'est des clichés de cinéma. Hein. T'es obligé que l'action s'enchaîne. Là, t'es sur un truc propre.
Et en plus, ça offre quand même le moyen d'un petit flashback. Tu en parlais tout à l'heure, où on voit comment Thanos a adopté Gamora.
Ouais, mais surtout, ça permet aussi de placer la pierre de réalité,
oui.
Son pouvoir. Donc, triple effet qui se coule, quoi.
C'est-à-dire qu'en une seule scène, on arrive à quand même te faire un flashback qui te resitue l'histoire, montrer que le mec, il est tellement malin que il a des mind games d'avance.
Te montrer ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, la relation qu'il a avec Gamora, ça commence à placer des bails. Et puis, ça te permet aussi de miner un peu le groupe des gardiens de la galaxie.
Et de faire avancer la relation Star-Lord-Gamora.
Ouais.
Ah, c'est une scène, elle a l'air de rien, mais elle fait avancer le schmilblick.
Grosse efficacité.
Ah ouais, c'est. Ben, de toute façon, c'est pas pour rien que les scénaristes ils sont reconnus là, c'est que la scène elle est très 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 forte. Ça a l'air de rien, mais justement, c'est parce que ça a l'air de rien que c'est fort.
C'est début de bien, ouais.
Alors, du coup, le but de Thanos, c'était de récupérer Gamora, mais on se dit, mais pourquoi ? Et en fait, elle avait un secret, c'est le fameux secret qu'elle veut pas révéler à Peter, c'est qu'en fait, elle sait où se trouve la gemme de l'âme. Et donc, histoire de lui faire cracher l'info, Thanos avait capturé donc sa sœur Nebula, la meuf à moitié robot.
À moitié robot ou à 20% robot. Humanoïde.
Ah, je ne suis pas. Alors moi, tu vois, je ne juge pas. Elle est ce qu'elle veut. Elle a choisi d'être.
Elle est transgenre mécanique. Voilà. Dérivative vegan huile.
En plus, elle a pas trop choisi. C'est Gamora. Oui, non, elle a
subi. C'est ça qui est terrible. Mais et donc, alors le perso se fait torturer. Et en fait, c'est un écho à une scène du comics, puisque dans le comics. Une fois qu'il a les gemmes de l'infini, on l'a dit, c'est le but de plaire à la mort, il décide de matérialiser Nebula, mais sous la forme d'une espèce de zombie. Donc en fait, elle est ni morte ni vivante, elle est maintenue dans un état intermédiaire par la magie du gant, quoi. Et en fait, elle est dans une espèce d'agonie permanente. Et donc, c'est un truc vraiment dégueulasse, hardcore de torture.
Mais c'est un salaud, lui.
Et il fait ça juste pour regarde ce que je suis capable de créer comme dégueulasserie. et donc, la scène où il la torture, ça fait vraiment écho à ça, où il la maintient dans un état d'intermédiaire de vie et de mort pour faire parler Gamora. Et j'ai trouvé le clin d'œil bien trouvé parce que je me demandais justement comment ils allaient faire ça.
Et c'est surtout une scène qui rappelle à Gamora et à Nebula que finalement, rien n'a changé.
Ah oui, Thanos est toujours un bâtard.
Elles sont toujours
sous sa... C'est pareil. Hein. Moi, cette scène-là, l'enfant, elle est quand même gore.
Ah ouais.
Non, c'est
franchement... À un moment, je regrettais d'avoir amené le petit de 4-5 ans. Et j'ai même dit à son père, tu penses que c'est bon ? Il n'a pas eu peur. Il me dit, non, c'est bon.
On s'en fout.
Vas-y. Le gamin, il l'a fait. Mais ferme ta gueule, vas-y, je suis en train de passer là.
C'est bon, là, faut pas chier. Je vais me faire un top à Fortnite après.
Il n'y a plus d'enfance, moi, je vous le dis. Alors, du coup, elle crache la vérité. Elle dit que c'est sur la planète Vormir. Ils s'y rendent et là ils tombent sur what the fuck, crâne rouge. C'est quoi l'intérêt ?
Je suis tombé de mon siège. Je me suis dit ça c'est juste le truc fait pour dire bon qu'est-ce qu'on fait de Red Skull parce que ça fait 10 ans qu'on nous fait chier avec lui. On aurait dû le tuer dans Captain America. Qu'est-ce qu'on fait ? Il garde la pierre de l'âme.
Je crois que c'est les travaux fictifs de l'UMP, c'est tout.
Encore, mais...
Ils sont partout.
Ils sont venus nous donner un chèque.
C'est une conspiration.
D'ailleurs, je crois que c'est même pas lui qui est sous le masque.
Non, c'est pas l'acteur, non, parce qu'il voulait pas remplir.
Ouais, moi aussi.
Non, alors c'est pas...
C'est pas le mec qui faisait donc...
C'est pas Hugo Weaving.
C'est pas Hugo... J'ai checké justement parce que...
C'est pas Hugo Weaving qui écrit.
Ouais, ma théorie, c'était que c'était du copinage, quoi.
Ah ouais,
non, moi aussi.
C'était ma... Et en fait, rien, non, même pas. Donc non, ça va encore moins dire.
Ouais, bah ça sert vraiment à rien.
Mais du coup, je comprends pas d'un seul coup que Red Skull, il a des pouvoirs parce qu'il flotte un peu, il se téléphone machin et compagnie.
Non, il est devenu une sorte de. Une sorte de
gardien. Mais c'est le gardien.
Ouais, il s'est fait modifier par la.
Ouais, par la pierre, mais.
Il peut rien faire, de toute façon. Le gars, il peut pas tuer quelqu'un, il peut pas aider quelqu'un, il doit juste emmener la personne vers la pierre, c'est tout.
En fait, il est juste là pour faire la narration et
Mais quand je te dis juste que le gardien de la pierre sur une planète à des trillions d'années-lumière, l'ancien lead nazi... J'étais là, je me suis dit... Bon, c'est juste parce qu'il fallait le placer, fallait finir son arc. Lui aussi, le contrat patate de la bouche de Thanos, quoi.
Ouais.
C'est bon, après, ok, on a vu plus bizarre, admettons.
Alors, ça nous amène
à un
truc qui était intéressant, c'est que, donc, pour une fois, la pierre ne se récupère pas en l'arrachant des mains sanguinolentes d'un ennemi, mais il y a, soi-disant, une épreuve. Et ça donne, je pense, l'une des meilleures scènes en termes d'émotion et d'enjeu de tout le film, puisque le gardien, donc Red Skull, explique à Thanos que pour obtenir la gemme de l'âme, il doit faire un sacrifice et offrir ce qui a le plus de valeur à ses yeux.
Un être aimé.
Et je suis pas sûr qu'ils le disent comme ça.
Tu crois qu'il dit ça ? Tu crois qu'il dit ça ? Et même elle lui dit, de toute façon, toi, tu n'aimes personne.
Exactement. Alors, ouais, alors moi, ça m'a fait rire parce qu'on le voit venir gros comme une maison.
Voilà, ouais.
Et elle, pendant trois plombes, elle est là, genre, mais tu es complètement ouned, t'aimes personne, donc machin.
Mais tu sais que.
Ça raconte leur relation, oui. C'est que pour elle, il ne l'aime pas, alors que pour lui, et c'est la même chose, c'est que nous, on pense qu'il est juste là pour détruire l'univers. Mais en fait, il a une vraie compassion. Il pense vraiment ce qu'il dit. Il veut vraiment réduire l'univers de moitié.
Pour son bien.
Pour sauver l'univers.
Et c'est là d'ailleurs que le personnage de Thanos prend vraiment cette dimension de héros tragique. Voilà. De personnage tragique. C'est que là, ça te confirme. C'est vraiment un mec qui va sacrifier des choses auxquelles il tient. C'est pas juste un mec qui fait des caprices. Il est parfaitement conscient.
Il est au courant des sacrifices.
Voilà. Et il le fait. Ça lui fait mal. Ça le déglingue. Mais il a aussi la détermination. Et je pense que montrer des méchants déterminés qui ont cette espèce de sens moral de chaotique.
D'esprit de sacrifice.
Ouais, de sacrifice au-delà de soi-même.
Ça fait penser au gars un peu comme Rao dans Okuto no Ken, ce genre de choses.
C'est la même mentalité, mais c'est le truc de, enfin, dans un film Marvel, depuis un moment, il y a un vrai méchant.
Il y a un vrai putain de méchant.
Mais moi, à un moment, moi, j'ai quand même hésité. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'il va la tuer, ça va rien faire, parce qu'il aime vraiment personne. Et qu'il va devoir retrouver un autre moyen. Au bout d'un moment, je me suis posé des questions.
Non, mais c'est d'autant plus terrible quand Gamora, elle comprend le bail... d'une, bon bah déjà elle réalise que Thanos il va pouvoir mener son truc à bien, elle réalise qu'elle va mourir, ce qui est quand même pas super jojo, mais en plus elle se rend compte qu'elle va être la clé qui va lui permettre d'accéder à ce pouvoir et ça va confirmer que il tient vraiment à elle et c'est une idée qui la révulse. Le fait que ce type qu'elle déteste, en fait elle est la chose auquel il tient le plus au monde. Donc, tu as vraiment tout un mix d'émotions. L'actrice rend... Zoé Saldana, elle rend ça super bien. Le côté ascenseur émotionnel en très peu de temps. Sur 30 secondes, une minute, elle passe dans tous les états, quoi.
Non, ouais, c'est une scène puissante, juste gâchée par Red Skull, quoi.
Ouais. En plus, Red Skull... quand il arrive, je sais pas si vous vous rappelez, il est dans une espèce donc de toge noire flottante.
Complètement Dark Souls.
Je me suis dit, putain, c'est la mort.
Moi aussi, je me suis dit,
ça y est, la mort elle arrive.
J'ai vu sa grosse tête, j'étais dégoûté. J'ai dit, mais pourquoi?
Ah ouais,
Vous me dites, il n'y a aucun objectif parce que c'est même pas pour faire croquer un copain.
Ouais, il y a un mec qui a croqué quand même, mais c'était pas Hugo Bébé.
C'était pas le bon.
Hein, c'était bon. Moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais vu à la place, c'est un peu ce qui se passe dans le comic, c'est que Thanos rentre dans la pierre.
Alors, c'est ce qui se passe. Moi, je pense que c'est ce qui se passe, puisqu'à un moment, on voit...
Avec l'espèce de palais dans l'eau, là. Enfin, ouais. De trucs dans l'eau, sur l'eau, là.
Oui. Et notamment parce que plus tard, quand ça se reproduit dans le film, il revient au même endroit, et il y a Gamora dedans. Et comme c'est elle, le sacrifice de la pierre de l'âme, eh ben, elle est dedans. Je l'interprète comme ça.
D'accord. Non, mais c'est pas impossible. Hein.
Moi aussi, j'ai interprété comme ça aussi. Hein. Il était dans la pierre. Hein.
Parce que si vous reprenez le comics, la pierre de l'âme, elle est particulière puisque il y a un monde à l'intérieur et c'est là où dans le comics il y a Adam Warlock et donc le monde de la pierre d'âme, c'est vraiment un truc particulier qui contient un peu une part de tous les gens qui l'ont possédé ou qui ont un lien avec. Et donc, l'idée de tu fais un sacrifice, donc ok, elle se retrouve dedans. Et du coup, je pense que c'est comme ça que le personnage va être ramené dans la suite de l'intrigue et que elle va être un peu la germe qui va bousiller la tête de Thanos, puisqu'à la fin, elle lui dit t'as gagné, mais tu l'as fait. Et il te reste quoi? Ça t'a tout coûté. Donc, à ce stade de l'intrigue, Nebula arrive à s'enfuir, rejoint les gardiens et se dirige sur la planète Titan avec eux. Donc Titan, on avait dit tout à l'heure, c'était le monde originel de Thanos. Stark et Spider-Man arrivent à débarrasser Strange donc de Mao. Alors, c'est dommage, il a une fin un peu blop.
Mais à la fin d'Alien.
Ouais, mais d'Alien. Alors, tu vois, le côté Spider-Man qui fait tout le temps des références aux années 80, j'ai un problème avec ça.
Non, moi, parce que c'est un Spider-Man qui fait des bonnes blagues, en fait.
Oui, ouais. il est rigolo, mais c'est, si tu veux, quand tu vas parler à un mec comme Tony Stark et tu lui dis « Ah, je sais pas si vous connaissez ce film Alien », tu me le fais une fois avec le coup de Star Wars, c'est rigolo. La rengaine, elle commence à être un peu... En plus, alors, je sais pas pourquoi, mais quand il a parlé de Alien, je voyais pas du tout à quoi il faisait référence. Enfin, le film, bien sûr. Direct. Mais j'avais pas compris le côté de je vais l'expulser dans l'espace. Et,
Mais après, le truc, c'est que Spider-Man, il a du mal à parler à Tony Stark. Donc, il a trouvé un truc, comme tu dis, avec Star Wars. Il se dit, c'est un truc où j'arrive à lui parler. Il continue, en fait.
Ouais.
C'est le côté un peu Spider-Man. Il est un peu lourd sur les blagues. Ah oui, tu vois.
Mais il est très bien. Enfin, moi, j'adore Tom Holland, meilleur Spider-Man de l'univers. Hein.
Mais surtout que tu vois, Stark, il veut pas lui parler.
Mais non, mais parce que en fait, ils sont surtout en train de se battre et tout. Il faut être focus, l'ennemi est dangereux.
Même quand ils se battent pas, Stark, c'est le daron qui parle pas avec son fils, quoi.
Mais parce qu'il arrive pas, en fait. Il sait pas quoi dire.
Mais parce que lui-même, c'est un gamin. Quand tu regardes les comportements de Tony Stark, c'est un ado attardé. Et qui du coup se retrouve entre guillemets avec ce fils de substitution. Et il essaye d'avoir de l'autorité, mais une autorité que lui-même n'a jamais respectée.
Il se dit, je suis pas légitime parce que je lui dis de pas faire des trucs que moi-même j'ai fait 10 fois pire.
Je serais le premier à faire, la même chose.
Ouais, bah ouais.
Et il se voit avoir des comportements complètement irresponsables. Il a du mal à avoir ce détachement.
Mais c'est pour ça qu'il l'aime bien d'ailleurs, parce que je pense qu'il se retrouve en lui, le côté impétueux, mais il a peur parce qu'il sait ce que ça peut donner. Donc lui, il se dit, moi j'ai mon armure, j'ai mon truc. Et c'est pour ça qu'il lui fabrique une armure d'ailleurs.
Le mec, il fait une armure super d'ailleurs.
L'armure avec les pattes d'araignée qui sortent et tout.
Et c'est pareil, il a une nanotechnologie, l'armure aussi.
Ouais, c'est la même. Enfin, c'est le même dispositif.
Même procédé, ouais, mais c'est. Voilà, il pense vraiment à lui, il pense à le protéger, il lui a fait déjà une première combinaison qui défonce, la deuxième est encore mieux, il veut le protéger, c'est qu'en fait il a peur pour lui parce qu'il est trop jeune.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, il veut pas s'accrocher à lui pour pas
l'entraîner.
Ne pas l'entraîner, voilà.
Mais il l'entraîne malgré lui. Hein.
Oui, bah. Parce
qu'il n'a pas le choix.
il a forcé, quoi. Il y a aussi ce truc-là, Spider-Man, c'est un putain de forceur dans ce film. Alors, on a un moment où les deux groupes se retrouvent. Donc, d'un côté, les Gardiens de la Galaxie et la team Stark, on va dire. C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment d'appellation. Donc, au début, c'est quiproquo. Oh là là, où est Gamora? Mais oh là, vous êtes des ennemis de Thanos et tout. Puis, en fait, bah, tout le monde se rend compte que ils ont le même but. Un peu gonflant ce passage-là, très hystérique.
Le Mexican stand-off, un peu à la con.
Parce que pareil, c'est de la bataille de punchline entre Stark.
Mais ça permet d'avoir quand même la scène cool où Star-Lord affronte Stark.
Oui.
C'est quand même quelque chose que James Gunn lui-même disait quand il a créé les Gardiens. Il voyait Star-Lord va être une patate Iron Man. Il disait les possibilités elles sont infinies. Donc c'est le seul point positif de cette scène, c'est vraiment la petite baston. Iron Man, Star-Lord, qui est vraiment stylé en plus. On voit même que Star-Lord arrive quand même à un peu.
Oui, il arrive à faire
un neutraliser.
Mais moi, le passage après le passage que j'ai aimé, je sais plus trop qu'est-ce qu'il raconte le Drax, mais il est complètement con. Quand l'autre il dit, quittez-toi. Je sais plus ce qu'il dit.
Il fait Gamora, t'as une histoire qui fait j'ai une meilleure question. Qui est Gamora? Drax qui fait pourquoi Gamora?
Oui, en passant, il y en a un qui. Ouais. Où est Gamora? Qui est Gamora? Et Drax, il enchaîne, il fait pourquoi Gamora?
Gamora,
ouais. C'est con, ça c'est très très con.
Ouais, voilà, mais lui il est trop con.
Ouais. Ils l'ont rendu vraiment gogol par rapport au premier film.
Oh, il a toujours été gogol. Hein.
Ah, mais il a toujours été gogol le perso. Ça me va, hein. Très content de voir mon catcheur Batista,
Dave
à
Batista.
L'époque où il est en slip.
Non mais franchement, lui...
Quel homme.
Et moi je pense que voilà, pour un gars qui fait du catch, il n'est peut-être pas voué à être acteur.
C'est un bon acteur. C'est vraiment un bon acteur. Ouais, ouais, dans d'autres films où on a pu le voir, vraiment il fait le taf, quoi. Alors donc, on est réunis, on a refait un nouveau groupe un peu plus dense. Petit moment de pause nécessaire parce que le film était quand même bien bien speed jusque-là. C'est là où on pose un peu les bails et où Strange va utiliser l'œil d'Agamotto pour explorer les futurs. et faire cette révélation. Il n'existe qu'un futur sur le million et quelques d'univers.
14 600 000.
Ah putain, t'avais noté, quoi. 600 000. C'est pour ouais. Ça, j'aime la précision, quand même.
C'est... Non, je crois que c'est 600, 605.
Ouais, mais, 14 millions
605. Moi, en français, c'était 14 600 000.
En tout cas, ce passage-là, là, moi, je trouve que quand il cite cette chose-là, c'est dramatique, mais en même temps, t'as l'espoir, en fait.
Oui.
T'as l'espoir il y a une chance. Et
mais qu'ils disent une sur tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent foirer.
Oui, mais à partir de là, tu te dis que ce qu'ils font...
C'est possible.
C'est les bons choix. Mmh. Ce qu'il fait, lui, en tout cas. Mmh.
Alors justement, ouais, ça, c'est un truc qui a fait controverse, parce que plein de gens disaient... Ah, oh, mais comment ça se fait qu'il a donné la gemme du... Puisque c'est ce qui va arriver, Thanos va arriver,
bah,
il va y avoir
une grosse
bagarre. Et au final, pour sauver Stark, qui est sur le point de se faire décimer, il donne la gemme du temps, et tout le monde dit, mais pourquoi il a fait ça?
Et parce qu'il a déjà vu.
Voilà, parce qu'il a vu, et voilà. Il sait que le truc qui va amener l'histoire dans le bon sens, c'est le fait qu'il donne la pierre.
Mais est-ce qu'on... Il y a personne, je sais plus, c'est Jacoba qui voulait parler de la synergie, en fait, dans le combat, parce qu'ils font vraiment...
Alors justement, j'y viens. Ouais, le combat...
Je croyais qu'on allait couper, excuse-moi.
Non, mais en fait, je fais l'histoire, après on commente. Donc là, à ce niveau de l'histoire, le plan de Thanos se précise, parce que c'est vraiment là où il va énoncer clairement qu'il veut décimer les peuples de l'univers, et c'est là où il raconte l'histoire de Titan.
Ouais, il y a un peu de backstory, ouais.
Voilà, et c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le moment de pause où il y a de l'exposition, où avant le grand final, on va mettre très clairement en scène les enjeux, l'aspect dramatique. Et finalement, tout ce que... Même si on... Enfin, moi, j'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas le plot avec Dame Mort et tout. La motivation de Thanos, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un parallèle à toutes les politiques qu'on va qualifier d'un peu extrémistes ou pragmatiques qui sont, entre guillemets, séduisantes parce qu'on te promet qu'elles ont des effets. On te dit « Ouais, c'est dégueulasse, mais ça marche ». C'est comme tous les gens qui te disent en politique « Oui, mais c'est dur pour les chômeurs, mais ça a un effet sur l'emploi. En fait, c'est la notion de sacrifice utile. Il y a des choses qui méritent d'être sacrifiées parce que c'est pour le bon ordre. Et lui, quand il te le raconte, Thanos, t'es limite à te dire « Ouais, mais en fait, il a raison, quoi. Il faut buter tout le monde. »
C'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, dans le cinéma, je me suis dit « Mais si on avait été la moitié ?» Après, je me suis dit « Mais je suis complètement fou.
» Non, mais c'est ça la folie. C'est que ça devient crédible.
C'est pour ça que ça marche, ouais.
C'est ça qui est fascinant.
C'est que t'as un payoff derrière qui est énorme. Mm. Donc tu te dis, oui, c'est la moitié, mais... C'est... Ouais, il y a quelque chose.
Non, et d'ailleurs, il le dit...
Poser cette question.
Il le dit lui-même. Il dit, la moitié de l'humanité survivra. Il dit pas, je vais tuer la moitié. Okay. Il dit, il y a la moitié qui va survivre.
Ouais, mais c'est... Assez...
Parce c'est un bon que vendeur, parce qu'il quand te donne les bons... Exactement. On te donne les bons côtés. Hein.
Oui, mais de toute façon, quand tu
vends le plus produit...
Quand tu veux un produit, tu fais pas de négation. Tu dis pas mais.
Ah bah non.
Voilà. Bah il l'a bien fait.
Tu imagines vendeur d'arty Thanos.
Ah bah lourd, hein.
Direct, hein.
Putain. Si vous prenez pas la garantie, vous aurez que la moitié des années.
Et puis de toute façon, la garantie, elle est offerte. Hein, la moitié du peuple est mort.
Système équitable entre les riches et les pauvres.
Ouais,
tout le monde en profite.
Tiens, d'ailleurs,
est-ce que c'est pas du communiste après?
Non,
qui
alors tu soulignes un truc intéressant, c'est que Thanos le dit, lui, dans son idée d'éliminer la moitié des peuples, il dit il faut que ce soit équitable. Il n'y a pas plus de riches ou de pauvres, c'est dans tous les rangs, dans toutes les classes sociales, la moitié.
Ah oui, il n'y a pas de préférence vieux, jeune, femme, enfant. En ça, je pense que c'est vraiment un personnage qui trigger. Certaines communautés, voilà. Il y a des communautés qui ont déjà souffert.
Hein, faut le savoir.
Il faut le savoir. Hein. Et donc, elles vont encore perdre la moitié. Voilà, le parallèle est vite faisable. Hein.
Alors, ouais, petite dédicace à cette magnifique photo de profil que arbore Legacy, dont je suis extrêmement fier parce que c'est moi qui l'ai réalisé. Donc, ce Thanos Soral,
c'est Lola qui a dessiné.
C'est fou. Je pense que c'est l'une des PP les plus puissantes de cette timeline.
J'attends plus. Hein.
Alors, le combat, je pense que c'est l'un des plus forts en termes de débauche, de synergie.
C'est le fight qui te fait regretter que MVCI ne sort pas dans une semaine.
C'est vrai que...
C'est un truc de fou. C'est un truc. Là, tu me sors MVCI fini. Ils auraient eu le temps. Il est sorti à combien de temps, MVCI? Il y a 6, 8.
Septembre. Il est sorti en novembre, un truc comme ça, non?
Septembre, donc ça fait 7
septembre,
mois.
Septembre, même.
3, 7, 7 mois. Ça fait 7 mois qu'il est sorti.
7 mois de dev en plus, punaise.
7 mois de dev en plus. Tu lui mets donc des graphismes en plus et tu le sors sur la Hype Avenger.
C'était GOTY.
En 3 millions. T'en vends 3 millions.
Alors qu'il y a tous les persos qui sont dans Avengers.
Mais il y a tous les persos. Et en plus, tu fais. On vous offre Captain Marvel, le personnage du prochain film.
Oh. Bah oui.
Et tu skins correctement Thanos.
Ah mais oui.
T'as juste à reskin Thanos et c'est bon.
Et là, t'en vends des palettes. Le combat est ultra puissant. On a sûrement la meilleure scène d'action de Doctor Strange.
Ouais. Quand il se multiplie par 5. 50 000.
Ah oui, très son Kagebushin, Naruto.
Mais Naruto, c'est de la merde.
Il récupère les trucs, il fait des Kamehameha.
La meilleure scène d'action de Tony Stark.
Ouais.
On sent le poids qu'il met derrière les coups, l'ingéniosité quand il change les trucs, il met le canon, il commence à plus avoir assez de nanomachines. Non, franchement, super scène. Doctor Strange qui fait voler Spider-Man aussi.
Voilà, ça j'ai kiffé ça.
Ça, c'était vraiment. J'ai toujours trouvé que le Spider-Man qu'il mettait, Marvel, il était inférieur au Spider-Man de Sony. Le Spider-Man de Sony, les deux derniers, là, comment ça s'appelle, Amazing. Ouais. Non, Amazing. Amazing Spider-Man, ils étaient nuls, mais ils avaient pour eux que les combats étaient bien. Par contre, c'était sûrement les meilleurs combats de Spider-Man. Mais Homecoming, j'ai trouvé que c'était un peu plus faiblard. Là, franchement, on a eu un super Spider-Man.
Et qui, en plus, garde son petit effet de souffle comique. Parce que quand le combat se finit, que ça commence à être... Ah oui, on ne l'a pas cité. Ce moment où Thanos, en mode « Ok, j'en ai ras-le-cul », fait « Vous voulez vous battre ? Tiens, mange-toi une lune. » C'est-à-dire que il fait un truc de méchant de shonen. Il fait je t'envoie une planète dans la gueule.
Non, mais ça c'est trop stylé. Même Chewbacca il a pas résisté une lune. Hein.
mais ouais non cette scène là mais.
Ah non mais quand tu le vois tirer la lune tu sens. En fait c'est trop bien fait parce que tu sens la force.
C'est ça.
Je me suis dit c'est God of War.
Oui, moi je me suis dit quoi c'est l'explosion galactique.
Mais tellement.
Galactique.
Les chevaliers du Zodiac
ouais. Ouais. C'était trop.
Et du coup, t'as à ce moment-là donc Spider-Man qui est en train d'essayer un peu de sauver les gardiens qui sont pas très rapides et qui leur dit « Désolé, j'ai pas la mémoire des noms », alors qu'ils sont pas du tout dans une situation où ça a du sens. Et je trouve que c'est sympa parce que c'est Spider-Man.
Ouais, voilà, c'est Spider-Man, voilà.
Spider-Man, il est à faire ce genre de réplique à la con alors que la situation est très grave et que lui soit comique, ça a du sens. Parce qu'en fait, il est en train de péter les plombs et il faut qu'il évacue.
Ça. Moi, ce que j'ai senti dedans, c'est un peu quand t'es en stress, tu sais pas quoi faire, en fait, ça le calme lui-même.
Ça a toujours été la soupape de Spider-Man, le fait d'utiliser l'humour pour dédramatiser le truc, quoi.
Pour se rassurer lui, et puis aussi pour énerver un peu ses adversaires et mind-gamer, il est tout le temps dans ce truc.
Ouais, mais là, il n'y a rien à mind-gamer, là.
Là, il faut esquiver les planètes, hein.
Ouais.
Et puis, le gars, l'adversaire, il est bien trop fort.
Alors, on a zappé un moment, je reviens vite fait dessus, puis après on va attaquer la dernière partie. Le plan des héros, à la base, c'est quand même d'attirer Thanos et puis d'utiliser le pouvoir de Mantis pour le stun et lui arracher le gant de l'infini.
Ok, mais dans ton podcast, tout le monde comprend stun.
Tout le monde comprend quoi?
Le mot stun.
Mais dans mon podcast, bien sûr que les gens comprennent le mot stun. Ouais.
D'accord. Bon alors, pour mes auditeurs, ceux qui écouteront le podcast, alors le stun, c'est quand vous êtes dans les vapes, d'accord?
C'est la traduction de stun, quoi, oui.
Lâche un pouce bleu si t'as compris le stun.
Voilà, tu vois, dans Street Fighter, quand tu te mets aux enchaînements que je te mets, là, et que t'es dans les étoiles, c'est ça.
Parce que depuis tout à l'heure, on fait des références à des trucs de versus et tout, ça pose aucun problème, mais stun, ça te met mal.
J'avoue, ouais.
Non, mais là, je viens de penser, je sais pas, je me suis dit peut-être que...
Ouais, je pense qu'il faut tirer son public vers le haut et plutôt que de ne pas employer un terme, je préfère qu'il se pose des questions. Et toi aussi qui m'écoutes, tu le sais, si jamais tu ne comprends pas, cherche, documente-toi, Internet est un merveilleux vivier d'informations et bien sûr, partage sur tes réseaux sociaux ce podcast.
Voilà, c'était la pub.
Voilà, alors FTP. Je reviens au moment dont je parlais, ce moment où ils essaient de le neutraliser et où on se dit « Oh là là, non, Peter Quill va faire tout rater parce qu'il va comprendre que Gamora, elle est morte et il va faire n'importe quoi. »
Eh ouais, mais à côté, Strange le sait. En fait, à partir du moment où tu es dans la position Strange est en contrôle. Il est en mode Jack Bauer. Il ne peut pas avoir tort. En fait, c'est pareil. Tu prends 23 chrono. Tu pars du principe mental que Jack Bauer n'a jamais tort. Bah, tu peux jamais être gouaqué dans cette série, en fait. Parce que Jack Bauer, il a jamais tort des 10 saisons.
Ouais,
c'est pareil, là. Si tu pars du principe que Dr. Strange, il a jamais tort, c'est bon. T'es bien.
Mais il est un peu là, le problème. C'est que là, à partir de là, tu sais que déjà, même si quand on regarde un film comme ça, on sait que les gentils vont gagner. Mais là, tu sais qu'ils vont gagner. Parce que Strange, il teste. Enfin, il est sur son plan.
Ouais.
Il est trop serein.
Bah oui, mais c'est le... lui, il est pas serein, mais nous, on est serein pour lui. En fait,
oui,
on croit en lui qui croit en nous, qui croit en lui.
Tu vois. Voilà.
Ah, excuse-moi, tu fais du Gurren Lagann, là, et venant de ta part, je suis choqué.
Non, mais attends, c'est pas Gurren Lagann, déjà, ils ont pompé ça sur autre chose. J'en suis sûr. Ça doit être du Dostoïevski, au moins.
Ah oui, minimum. Donc voilà, je voulais quand même rappeler ça, parce que Peter Quill, quand même, en prend plein sa gueule au niveau... De la méta du film où on dit, mais vraiment quel connard.
Mais parce qu'il a été bête.
Il est montré comme le lotière de tous, même au niveau de prendre des décisions, quoi. Parce qu'au final, il empêche les autres de neutraliser Thanos.
Oui, mais son plan, il est bon à la base, parce qu'il a un bon plan. C'est grâce à lui que se crée l'occasion. Et il a été placé dans le film avant qu'il a embrassé Gamora, donc c'est sa meufeu.
Oui,
donc
c'est le côté humain, on peut pas lui retirer.
Mais il a quand même 50% d'humain, donc il est con.
Ah bah heureusement qu'il l'a dit,
contrairement aux 100% des autres.
Voilà, il l'a dit lui-même.
Ouais, mais il a été placé comme le mec de Gamora. Gamora est morte, il veut venger sa meuf.
Il va venger sa meuf, oui.
Ouais, mais de toute façon, ils comptaient se venger, eux. Ils enlèvent le truc et ils le dégomment, ils font tout ce qu'ils veulent.
Ouais, il l'aurait fait après, tu vois, bon.
C'est le truc le plus facile du film.
C'est juste que c'est une facilité.
Pas abusé. Voilà,
ouais.
Facilité.
Alors, en parlant de facilité... Moi, je vais vous parler d'un passage qui, à mon avis, est au-delà de la facilité, mais qui est là pour rallonger un axe narratif que personne ne voulait voir, mais qui servait un peu à ralentir la progression de Thor dans l'histoire, parce que sinon, il aurait été dispo tout de suite et on ne l'aurait pas vu à l'écran plus que ça. C'est le fameux moment de la forge céleste, là, Niva délire.
Alors, moi, j'ai préféré ce moment-là où on a eu donc... Peter Dinklage qui est petit mais grand.
Ah ouais, ouais. Non mais
parce que moi,
Peter Dinklage en géant, meilleure idée de l'univers.
Ouais, moi j'entendais géant et moi j'avais pas vu par rapport aux comics et après j'ai regardé. Moi je m'attendais à voir des petits.
Eh non, c'est des nains, mais géants.
Voilà.
Mais c'est ça qui est génial.
Mais par
contre, préférais cet arc narratif là où Thor il se sacrifie un peu pour récupérer une nouvelle arme à l'espèce d'arc Wakandé où. Ça parle en. Je vais reprogrammer ces nanos pour mettre des neutrons afin que ça arrête avec ces trucs-là, c'est gavant.
Non, mais c'est pour montrer que les mecs ils maîtrisent.
Ouais, mais c'est chiant,
mais
genre.
Comme ça en Afrique.
Oui, je pense que c'est parce que c'est l'accent qui te donne cette impression que c'est relou.
Non, non, c'est la scène en mode je vais faire ça avec. Oh, c'est chiant. On va retirer le truc de vision, faites pas chier.
Moi, je suis d'accord avec Sheik. Hein. Enfin, quand je dis je suis d'accord avec Sheik, c'est ce passage-là, là, avec le nain géant. Bah, hormis mettre le gars de Game of Thrones, ça m'a surpris, j'ai kiffé. Mais sinon,
ouais, c'est la construction d'une arme. L'arme est importante pour la suite.
L'arme est importante, mais la démesure qui est mise en œuvre, elle est un peu peanuts parce que ça va trop vite.
Ouais,
par exemple, en fait, ils auraient dû te mettre un petit bout de ça, voir qu'ils galèrent, ils n'arrivent pas à redémarrer le truc. Cut, tu vas sur une autre scène où il se passe des trucs.
Non, il y a trop de persos, trop de situations, t'es perdu après.
Ah non, mais... je dis pas que c'est forcément plus simple en termes de pour te repérer, mais là, ils arrivent, la forge ne marche pas, faut la remettre en route. Ok, il y va, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser le truc. Il fait deux tours avec Rocket dans sa petite navette. Attends, mais genre la petite navette des gardiens, elle est suffisamment puissante, boostée avec le coup d'élan que lui donne Thor pour redémarrer. C'est un peu cheapos, quoi.
Mais oui, Thor est fort quand même. Personne ne peut faire hormis lui.
C'est biceps.
Après, moi, par contre, moi j'aurais préféré le voir apparaître directement dans le dernier arc.
Avec directement son arme, ouais.
Et non, parce que là, on aurait répété l'erreur d'Avenger 2 à Thor fait ta vie et tu reviens au dernier moment sauver la journée. Et si, c'est ce qui se passe dans Avenger 2.
Tu peux montrer des phases, comme il dit Flashon, sans montrer l'arme. Et après, il arrive et là, tu vois l'arme.
Oui, tu peux montrer, tu peux montrer la forge qui se rallume et la, voilà. Et la conclusion de « Ah, j'ai mon arme ». Mais en fait, c'est parce que en fait, ils font ça comme un délire à la Excalibur.
En fait, il faut montrer qu'il mérite son arme parce qu'il a mis sa vie en jeu pour pouvoir la récupérer.
Ouais, mais si tu racontes trop, le client, on peut le comprendre sans
client.
Dans le cas du client, on peut le comprendre. En fait, ton film, il faut pas forcément tout raconter.
Parce et après, que c'est Tony Stark qui est de droite. Hein. Ouais. Tu traites le spectateur comme un client, tu n'as aucun respect pour l'art. Vraiment, je suis dégoûté.
Le consommateur que je suis. D'accord. Non. Mais concrètement, je pense qu'on aurait pu mettre autre chose ou juste des bribes avec Thor et enchaîner. Et après, le truc, c'est que quand même, le Groot plutôt. Mais il porte son marteau.
Non, mais Groot, il porte rien. Il en file les branches et.
Il l'a porté.
Oui, non, mais déjà.
C'est pas Mjolnir. Hein.
Déjà, est-ce que.
C'est ça, voilà.
Il n'y a pas l'effet Mjolnir du mérite.
Ah,
déjà,
bah,
déjà de base, c'est pas Mjolnir. De deux, le règlement, c'est pas que ça appartient à Thor, c'est que c'est un cœur pur.
Oui.
Qu'est-ce qui te dit que Groot, il n'a pas un cœur pur?
Ben voilà, c'est ça.
Groot, il est méga pur.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que
même Captain America dans Avenger 2. Il a bougé un peu le marteau.
Dans le comics, il le porte carrément.
Il a bougé un peu.
Vision, il le porte.
Vision le porte tranquille.
Oui, mais parce que Vision, il n'est pas considéré comme un humain. C'est comme tu mets l'ascenseur dans le marteau dans un ascenseur, l'ascenseur va soulever le marteau.
Oui. Mais le marteau, je crois
que l'ascenseur il mérite. Hein. Ça, il fait un taf dur, il se plaint jamais.
Je crois que ce marteau, il a les mêmes propriétés que le précédent, parce que même lui le dit, vous ne pourrez pas le porter. Enfin, cette arme-là, vous pouvez pas la porter. Il le dit aux autres.
Ce qu'il dit, c'est que ils ont pas l'esprit et qui viendrait fou en gros en le portant quoi. Qu'ils disent.
Oui, parce que c'est en fait le pouvoir qu'il doit canaliser, ça doit être. Même je pense que l'ancien Thor n'aurait pas pu le porter, tu vois. Pour montrer la progression du personnage.
Ouais, c'est pas une question de force. Mais Groot, il le porte.
Ouais, mais il fait le manche.
Ouais.
Ouais, donc c'est pas. Est-ce que. Parce qu'à ce tarif-là, le manche porte le marteau. Est-ce que le manche mérite de porter le marteau? Je pense qu'on est en train de se poser des questions un peu.
Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que Groot, il est capable de le faire, quoi.
Mais parce que Groot, il est stylé aussi.
Et pas les autres.
Ouais, pas les autres. Les autres, voilà. C'est des connards. Et puis voilà.
Groot, le MVP.
Groot number one. Donc, il a enfin récupéré. Il a enfin récupéré son arme, le Stormbreaker. Oulala, ça va chier. Cut, nous allons au Wakanda et là on sent que ça y est, l'ultime moment arrive puisque c'est la grande bataille finale au Wakanda avec les sbires de Thanos qui arrivent dans un premier temps pour aller récupérer la gemme de Vision, donc ils sont retranchés dans le palais, toutes les armées alentour sont réunies autour de T'Challa pour faire front. Il y a les Rogue Avengers aussi qui sont là. On a Banner qui s'est fait refiler un Hulkbuster qui est utilisé en comic relief. Ça me fait tellement mal de le voir comme ça.
En fait, c'était le truc de dire. Soulant. Moi, quand j'ai vu le Hulkbuster dans les machins, je me suis dit. Je me suis dit, c'est soit il est contrôlé par Tony de loin, comme une intelligence artificielle, mais c'est pas Tony à l'intérieur. Parce que Tony, il met jamais deux fois la même armure. À part quand il est vraiment en PLS à la fin d'Avenger 1, il remet sa vieille l'ancienne armure parce qu'elle est complètement détruite, mais il remet pas ses anciennes armures. Donc déjà je me suis dit c'était pas Tony dans les trailers, mais par contre que ce soit Banner dedans, alors que dans les trailers on voit clairement Hulk qui charge avec les autres. Bon, et en plus on n'explique pas, on le comprend parce que moi j'ai un intellect supérieur, mais... Non, mais on comprend en gros que le fait que Hulk se soit fait laver par Thanos, il a peur.
Oui, il a peur de ressortir.
Il a peur de ressortir, de se refaire laver. Ça aurait été bien un peu juste de l'expliquer, parce qu'il n'y a pas que nous qui regardons les films, il y a les enfants et les enfants.
Non, mais je crois que ça, ils l'ont compris. Hein.
Je sais pas.
Toi qui étais avec des enfants, Alba, est-ce que...
Bah, ouais, ils l'ont compris, ils m'ont dit Hulk, il a peur.
Ah bah ça va alors, ok. Bah, c'est moi, alors.
Non mais comme quoi les enfants aussi ont des intelligences supérieures, c'est fou.
Ah mais quand t'es enfant, t'as une intelligence beaucoup plus brute.
Moins
étriquée, exactement.
Mais peut-être que oui, t'as raison dans ce que tu veux dire. Peut-être que quand t'es un adulte et que tu comprends vraiment pas, parce que tu dis il peut pas avoir peur, c'est Hulk, ou tu te poses plein de questions.
Moi pour toi c'est un trauma que tu peux plus facilement passer, mais Hulk c'est clairement un enfant en fait.
C'est ça aussi.
Il a une part d'enfant, une d'immaturité.
Mais tu vois, c'est con parce que ça s'oppose à ce qu'il était dans Ragnarok. Là encore, le film d'avant n'est pas respecté parce que normalement, il est censé avoir évolué et avoir pris un peu de bouteille et d'être un peu plus mature entre guillemets.
Ouais,
en tant
mais
que
il a jamais perdu d'un côté.
Ouais, il a jamais perdu comme ça.
C'est ça, ouais.
Alors, il est vraiment humilié, quoi.
Ah oui, il est humilié, mais si tu veux. Il a par exemple quand il a affronté Thor dans l'arène dans Ragnarok,
il a perdu.
Non parce que tel que ça t'est raconté, il gagne, mais il a déjà pris cher. Ça lui est déjà arrivé de prendre cher.
Ouais, de prendre des coups, oui, mais c'est des coups qu'il maîtrisait en fait. Là, voilà. C'est clairement, il était submergé. Moi, je pense que pour bien montrer qu'il était qu'il était brisé, il aurait dû briser un bras.
Oui, il aurait dû lui faire une blessure physique plus marquante, ça je suis d'accord.
Ouais, parce que t'as jamais vu Hulk blessé en fait.
Non.
Physiquement. Et je pense que ça aurait été bien de montrer que Hulk blessé en fait. Juste un bras. Et après, Dr. Strange, il fait un sort du temps et il aurait réparé le bras à balle.
Non, mais même pas. Tu peux partir du principe que Hulk, de toute façon, il a une régénération de ouf et que. Voilà.
Ouais, voilà. Mais
t'as même pas besoin de t'emmerder.
Tu faisais un truc comme ça et puis c'était fini. Mais voilà, pour moi, ça manquait ce petit truc d'expliquer que Hulk, il avait complètement snappé, et que du coup, pour qu'il soit utile au combat, il est dans le Hulkbuster. Genre, il sait conduire une armure de Stark aussi. Bon.
Mais c'est un génie, en tant que Banner. Ouais.
Mais le truc aussi, c'est que... moi, je crois que le Hulk, il veut se garder pour la deuxième phase.
Oui, il va avoir un arc de rédemption, où il va trouver le courage d'aller affronter...
Natasha, elle va être en PLS, il va sortir...
J'attendais ça dans ce film.
Ah oui, dans ce film-là aussi, j'ai trouvé que l'interaction entre les deux personnages, zéro. Banner et Natasha, c'était nul.
Natasha n'interagit avec personne. Elle se bat avec plein d'ennemis, mais elle n'interagit avec personne. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien.
Elle a son moment pour les féministes, là. Ils se battent contre une meuf.
J'ai trouvé que c'est pas du tout, justement, un moment féministe.
Bah oui, parce que sinon, c'est pas contre un garçon.
Ah bah non, justement... C'est genre, là, t'as une meuf forte, et des meufs fortes affrontent des meufs fortes, tu vois.
Ouais, mais elles sont deux.
Qui sait qui est la meuf la plus forte, tu vois.
On s'en fout. C'est... Normalement, justement, tu ne devrais pas avoir à dire c'est full meuf. Entre guillemets, ce qu'on veut, c'est la mixité
J'ai pas dit que c'était bien fait ou qu'ils avaient raison.
Oui, c'est ce qu'ils ont choisi de faire, mais dis pas c'est féministe, c'est ça que je veux dire.
Ah, moi, pour moi, c'est clairement... T'as la meuf black de Mission, de Walking Dead.
Non mais c'est ça, ils ont voulu mettre les nanas les puissantes du cast.
Oui, oui. Il y a même pas que c'était
un choix très malin.
Oui,
il y a la sorcière,
voilà. Donc il y a vraiment... il y aurait pu avoir un petit soldat de l'hiver qui cale une balle ou deux. Non, c'est vraiment...
Mais le plus féministe, ça aurait été que ces trois meufs, tabassent trois mecs. Là, ça aurait été plus féministe.
Alors là, ça aurait été le cliché de les meufs, elles battent les mecs et que les gens se battent entre eux, point. En fait, ça aurait dû être tiré au dé.
Ouais, voilà.
Ouais, mais le truc, c'est que si tu fais que les meufs, elles tabassent un méchant mec, tu vas avoir les mecs qui vont dire « Oh, c'est bon, le calendrier des
JDG, ça
me saoule. » Et si t'as Captain America qui aurait défoncé la meuf, ouais, bon, Captain, un homme blanc cisgenre qui tabasse une meuf alien.
Mais c'est ce qui se passe.
C'est pas lui qui est la meuf alien.
Au début, dans le métro, il lui met quand même des patates.
Oui, mais il la tue pas.
Ah non, il tue pas, non.
Du moment que tu tues pas, c'est bon.
Ah bon, tu peux taper les meufs si tu les tues pas.
Eh oui.
Attention à ce que tu dis quand même.
On reste dans le truc du film. Mais voilà, c'est en gros le seul moyen de s'en sortir pour eux, pour éviter que les mecs. Ils fassent les JW et que les débiles les Lightrike, c'est qu'ils se tapent entre eux en fait.
Ouais.
Moi j'ai vraiment vu ça, les mecs, c'est sûrement le moment où ils ont dû se poser plus de questions.
Tu veux dire, ils ont pris une stance neutrale histoire de.
Exactement.
Moi, de la manière dont je le vois, à mon avis, c'était plus un moment pour mettre. Eh, regardez, si on faisait un film Avengers avec que des meufs, ça marcherait aussi. Hein,
ah, tu veux dire une espèce de.
C'est un peu comme ça que je l'ai vu, moi.
Un test.
Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai vu, parce que.
Ah ouais, j'ai pas pensé.
Moi,
ça.
J'ai complètement un ciné sauvage. Mm-hmm. Il y a eu quand même des petites réactions, quoi, quand ils ont vu 4 meufs comme ça, dans une chaise, dessus. Donc, à mon avis, c'est un peu un test aussi, quoi.
Ouais, alors, ceci dit, ça pourrait être intéressant.
Ah non, pourquoi pas. Hein. Si c'est bien fait, c'est mon perso.
S'il y a Captain Marvel, ouais.
Ah, mais il y aura Captain Marvel.
Tiens, tu l'as.
Ce sera le capitaine de l'équipe. Hein.
Alors, le combat est apocalyptique. Vraiment, là, ils ont sorti tout.
Les gros bras.
Ils mettent toute la patate. Il y a des retournements de situation toutes les 5 minutes. L'arrivée de Thor, c'est le moment ouf. Ouais.
Et avant l'arrivée de Thor, il y a quand même un petit moment qui est pas mal. C'est quand ils se tapent tous et qu'il y a des grosses roues qui arrivent.
Ah bah c'est après, ça.
C'est pas... Ah oui, c'est après, ouais, excuse-moi.
En fait, c'est à peu près au même moment, en fait. On parle à peu près du même moment, le combat des meufs, les roues qui arrivent, Thor.
Ouais.
C'est un peu ces endroits-là. Ouais, les roues, c'était stylé comme...
Moment-là, où Wanda Maximoff arrive... Et fait disparaître ses roues, je sais plus trop ce qu'elle fait.
Elle les prend, elle les jette.
Et il y a la femme du Wakanda qui lui dit mais.
Et pourquoi elle était pas là avant?
Pourquoi t'es restée là-bas? Pourquoi t'es pas venu taper?
Ouais, parce qu'elle était au côté de Vision.
Voilà. Et moi, je pense que c'est ce passage-là qui redonne de la force en fait à Wanda Maximoff, parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus trop si. En fait, on te rappelle qu'elle est dans le game.
Oui, qu'elle peut combattre et qu'elle n'est pas juste la copine d'eux, l'élément qui doit tenir la main de Vision pour qu'il aille mieux. C'est vrai, ça. Alors, le truc qui est dommage quand même sur cette bataille, à mon avis, c'est que tout le gigantisme, toute la puissance est cassée par un cadrage pas inspiré du tout. C'est-à-dire que tout est très étriqué par la caméra. On n'a pas la sensation du truc gigantesque qui pète. Tu vois, tu parles des roues qui sortent de terre. Le moment où on voit ça, le cadre, il est vraiment très, très, très serré. Et tu n'as pas cette sensation de puissance de machine démentielle qui viennent d'éventrer le sol. Parce que tout est très serré.
Non, mais c'est trop serré parce qu'ils veulent limiter la casse ailleurs. Et c'est dans Wakanda, enfin, ils ont mis
la caméra. Non, la caméra, je te parle.
Ah, excuse-moi.
Le cadre de la caméra, pardon. Non mais enfin, si tu te poses la question, peut-être que d'autres aussi, donc ça vaut mieux que tu le dises. Et moi, une référence que j'ai pour le gigantisme, c'est Rogue One. Je suis pas fan du film sur plein de points, mais il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que le film sait donner cette impression d'énorme et d'échelle de valeur du champ de bataille. Et en fait, ça aurait fait du bien à ce passage du film, parce que là, on aurait eu le côté voilà, territoire gigantesque, les meutes. Qui se déferle, c'est cadré tellement serré, tu comprends rien, c'est de la bouillie de pixels, c'est limite hystérique, tu vois, à un moment, quand ils se font tous submerger avant que Thor arrive, c'est ridicule, parce que genre c'est des espèces de meutes de chiens enragés qui leur tombent dessus, qui sont à 10-15 sur eux, je fais mais ceux qui sont sur eux, ils font quoi? Ils se mettent dessus avec leurs pattes. Normalement, quand t'as 4 bestioles sur toi, t'es en train de te faire mordre et c'est fini, quoi. Autant que Thor résiste un peu, je veux bien, mais... Enfin, non, Thor, c'est après qu'il arrive, mais... Black Widow, elle, ne serait-ce que 2 ennemis comme ça sur elle, c'est mort. C'est...
Mais oui,
elle sait se battre, ok, mais c'est une humaine, c'est juste une humaine.
Oui, mais elle a un chèque, elle.
Comment ça, elle a un chèque?
On te fait d'avoir un gros chèque, elle, Black Widow. Tu vois, elle n'est pas venue pour rien.
Elle a un costume qui est fait en scénarium, en fait.
C'est
tu vois.
Ça.
Donc, c'est très dur à percer.
C'est le meilleur métal de l'univers, le scénario.
C'est le meilleur métal de l'univers. Tu vois, Tony, il n'avait plus de scénarium sur le côté du ventre. Jack s'est pris une lame. Hein. Thanos, il l'a vu.
Mais c'était une lame en scénarium, c'est pour ça aussi.
C'était une lame en scénarium, tu vois. Donc, mais ce n'est pas suffisant pour tuer un Tony.
Mais non, parce que lui, il a aussi quand même le contractium qui...
Ah, juste en dessous.
Qui quand même arrive à bien encaisser.
Ah, le vibranium, c'est une feuille de papier à côté. Hein.
C'est ça.
Ouais, non, moi, pour la bataille, je l'ai trouvé stylé. Là, déjà, il y a un truc qu'on peut pas enlever et c'était la même qualité que je trouvais à Avenger le premier, c'est que la bataille est de jour.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je respecterai à vie parce que c'est t'as beaucoup trop de films où c'est les derniers combats se passent dans le noir parce que ça coûte 30 fois moins cher, quoi.
Ça cache plus la misère, ouais.
Ça cache plus la misère. Là, on a quand même un beau fight. On a quand même plein de fights séparés. On a le Winter Soldier. D'ailleurs, question, parce que c'est un personnage, j'ai l'impression que c'est lui qui polarise le plus. Vous l'aimez bien ou pas?
Moi, j'aime pas.
Oui. Bah, j'aime bien.
En fait, il est pas indispensable. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est pas un personnage indispensable.
Déjà, ouais, il est cool quand même. Il est cool quand même.
En fait, qu'est-ce qui fait de plus que Captain America?
Il est dark.
Bah, ouais,
c'est
voilà,
Dark c'est... Captain America, c'est tout.
Bah oui, c'est exactement ça.
Mais on aurait mis un autre Avenger, ça aurait pas changé en fait. Tu vois, qu'il soit là. Qu'il...
Suffisait de l'enlever lui et de ne rien mettre à la place.
Voilà, ça aurait rien changé.
Ouais, mais il est cool quand même.
Oui, il est stylé pour le soldat de l'hiver dans l'épisode ou sinon dans l'autre. Mais là, en fait, c'est bien de l'avoir. Mais c'est pas moins bien de pas l'avoir, en fait, tu vois.
Ouais, j'avoue, bah, y a plein de persos qui changent pas la donne.
Si, mais... dans ce film-là, ouais, c'est un
Shimo
peu ça,
quoi. Ant-Man, même s'il le réserve pour autre chose, mais Ant-Man, eh ben, j'aurais plus kiffé le voir, là.
Oui, parce qu'il peut se transformer en grand, il aurait des coups et tout, mais... Enfin, je sais pas, moi, je l'aime bien, Captain, le soldat d'hiver, il est bien, je trouve qu'il est stylé, il lui donne un nouveau bras, en plus.
Ah non, mais voilà, il a un nouveau bras, on voit même pas ce qu'il fait, le nouveau bras, c'est pour ça que en fait, il apporte quoi?
Bah, il a apporté une super blague avec Groot.
Ouais.
Non, avec Rocket, oui.
Ouais.
D'ailleurs, j'aimais beaucoup que Rocket se focalise plus sur un vieux M16 de merde que sur le bras cybernétique en vibranium.
Ah bah si, ça, son bras, il fait tourner Rocket avec.
Grosse synergie, hein.
Non, mais il pouvait le faire avec l'autre. Mais ouais, même moi, c'est... quand il a demandé le gun, je me suis dit, mais il est sérieux, ce gars-là? Le gars, il a un bras de fou. Pourquoi tu demandes même
ta... Je connais pas le vibranium, pardonnez.
Mais même son gun à lui.
Voilà,
même
ça, le fusil d'assaut, ouais.
Il est mieux.
Oui. Ouais, mais je pense qu'aussi, il y a le côté, il s'en rend pas compte.
Ouais.
Parce que la technologie terrienne, c'est la première fois qu'il vient sur Terre, a priori. Et il voit donc le mec super badass en train de déglinguer les mecs avec une arme qui a l'air imposante, un peu plus fin que ce que lui il a en plus, donc ça peut peut-être lui donner une impression. Tu sais, le perso de Raccoon, il est un peu gamin aussi quelque part.
Ouais.
C'est un gosse qui voit un jouet, il a envie d'essayer. Puis c'est vrai que quand il l'attrape et qu'il le braque, en fait, il utilise Rocket presque comme un flingue.
Ouais.
Ouais, ça faisait un truc marrant, mais je pense que c'est ils se sont retrouvés avec le perso sur les bras comme tant d'autres, hein, et ils ont essayé de faire un truc avec. Pareil, Falcon ou War Machine. Bon, ils sont là parce qu'il faut un peu de hauteur sur le champ de bataille. Donc voilà, t'as deux mecs qui volent. Allez, ça passe.
Ouais, mais ouais, en enlever un, ça aurait rien changé, moi, je pense.
Non.
Ouais, enfin bon, après, il faut de la... c'est un argument de
il faut des noirs, c'est aussi. Ça
bah, non, je pense que le film, on a quand même un beau nom. Je veux dire, non, mais la bataille de fin se passe au Wakanda, t'as que des soldats noirs.
Ouais, donc, c'est vrai, en même temps.
Ça, c'est pas le truc, mais c'est surtout que l'argument du film, c'est il y a 64 héros Ascension. Et ouais, bah, il faut les mettre.
En fait, est-ce que tu penses qu'ils ont voulu rajouter des persos en recopiant des gameplays, en se disant, on espère que ça va pas se voir?
Non, après, ce que fait Rhodes et ce que fait Falcon, c'est pas la même chose. Falcon, il vient en assist à des mecs. War Machine, il balance des bombes.
Sur les tapis de bombes. Ah, le tapis de bombes au début, j'ai trouvé ça.
Le tapis de bombes. Le tapis de bombes, c'est War Machine. En une scène, t'as War Machine. Ah, c'est ça qu'ils ont réussi à faire sur presque tous les personnages.
Ils ont réussi à bien les caractériser.
Ouais, j'ai trouvé quand même que Stark, c'était un crevard, il aurait pu lui donner la nouvelle armure.
Non, mais Stark, il s'occupe plus de lui, hein.
Techniquement, il l'a volé déjà cette armure. Donc,
Déjà, il l'a volé.
Oui, il le dit,
c'est vrai.
C'est l'ancien Iron Patriot, je sais pas quoi, là. Stark, il lui donnait un mur. C'est les États-Unis qui font le truc. Déjà, Stark, il est bien gentil de lui donner une armure et des jambes pour marcher.
Bah, en même temps, c'est à cause de lui, ses jambes, il les a perdues. C'est lui qui l'a appelé pour venir m'aider à.
Ouais, non, mais attends, il l'a appelé, c'est un soldat, il connaît son métier.
Ouais. De toute façon, il fait trop vieux. Mais c'est sur quel passage je voulais revenir? Oh, j'ai oublié.
Bah écoute, si ça te revient, tu nous le diras, puisque là, on va faire le finish quand même, puisque ça y est, on est au bout de cet affrontement. Donc finalement, Thanos arrive, puisqu'il a récupéré toutes les autres gemmes. Il lui manque plus que celle de Vision.
De...
Il lui arrache... Alors, Il y a un mindgame où d'abord les héros arrivent à faire exploser la gemme, détruisant Vision dans un geste de sacrifice. Mais Thanos il fait non, je suis pas d'accord, retour dans le temps, et hop, bah finalement il récupère la gemme, ce qui est quand même assez assez balèze. Et il obtient donc l'ultime pouvoir. Alors tout le monde essaye de lui tomber dessus, mais il les repousse. Alors c'est vraiment bien foutu, parce que ça montre à quel point il est devenu ultra puissant. Donc, je crois qu'à un moment, il y a War Machine, il lui fonce dessus. En fait, il le rend intangible, il passe au travers. Chacun, c'est le Hulkbuster, pardon. Je savais que c'était une grosse machine, mais...
Attention, il y en a qui l'ont vu deux fois ici.
Non, mais je respecte. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de vous, les gars. Moi, tout seul, je peux pas noter tous ces détails. Et donc, au final, il y a quand même Thor qui lui met un gros coup de tomahawk. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est une hache, parce qu'il y va quand même avec le côté tranchant. Hein. Il le plante bien dans la largeur, et là, il lui fait « Haha, tu aurais dû viser la tête.
» Non, mais le bras, fils de pute.
Ah, c'est ça. Ouais, combien de fois ils auraient pu lui couper son bras,
mais... Ouais, mais je crois que quand t'arrives comme Thor, il arrive, il a juste le deuxième, il veut le tuer, c'est tout.
Oui, bah, c'est une réplique de méchant pour mettre le seum. Hein. Et là, il fait le fameux snap, dont on parle pendant tout le film, en fait, en disant « Ah, il pourrait être d'un claquement de doigts. » Bah, au final, il le fait. Qui est comme dans le comics. Alors le comics commence par le claquement de doigts où il élimine la moitié de l'univers. Bah là, claquement de doigts. Et ça donne ce qui m'a à la fois gêné et en même temps fait kiffer. Quelque chose de très paradoxal dans le film, c'est qu'il y a le meilleur et le pire d'un finish tragique. Donc le meilleur, c'est le passage avec Spider-Man. Moi, j'ai failli chialer. Il se rend compte que voilà, il va mourir et il a peur. Il a peur, tout simplement. Il est en train de mourir, ça lui fait peur. Il se jette dans les bras de Stark qui peut rien faire, donc c'est encore pire. C'est vraiment horrible.
C'est son pire cauchemar qui se réalise.
C'est ça. Et t'as quand même.
C'est son vrai cauchemar. Quand on se rappelle Avenger 2, oui. Tony Stark il rêve de ce moment-là.
Et il le voit se réaliser.
Il le voit se réaliser littéralement.
Avec tout le monde qui disparaît. Gros truc toujours au crédit de Spider-Man, c'est que bon, il a peur au début, et puis finalement il fait preuve de courage. Ouais, il est au sol et il dit bon allez, entre guillemets, ça va aller. On sent qu'il fait face, quoi.
Je crois qu'il dit désolé Monsieur Stark.
Ouais, voilà, et c'est encore pire, parce que du coup ce courage là et tout, Stark il est encore plus dégoûté, quoi.
Mais en même temps, je crois que c'est parce que tellement il avait peur, il est resté longtemps, lui, quand même, hein, dans cette phase-là.
Alors ça, c'est un des défauts que je trouve, c'est que selon qui tu es dans le casting, ça va plus ou moins vite.
Moi, j'attribue plus ça à ta puissance de vie, qui a plus de temps à t'échapper.
Ah, c'est pas mal. C'est joliment dit. Alors, je pense pas qu'ils aient pensé à ça, mais c'est une belle
image. Parce que sinon, il en aurait beaucoup, hein, le dernier qu'on a vu partir.
Scarlet Witch. Fury. Charlie Fury, Twitch, il en a beaucoup. Ouais, bah il a beaucoup d'énergie. Lui, écoute, il a une résilience. M'emmerde pas. Mais comment je veux dire.
Mais par contre, ce qui est dégueulasse dans ce passage-là, c'est que t'as l'impression que il y a que Spider-Man qui a de l'émotion vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire que tous les autres se volatilisent, t'as l'impression qu'ils s'en battent les steaks.
Ouais. Ouais, mais il est plus jeune.
On t'a déjà placé Spider-Man. Tous les autres, après, t'as compris le système, quoi. Tu vois.
Oui, mais quand ça arrive dans les rues de New York et que des gens Kevin random sont en train de disparaître, personne ne hurle. C'est pas compliqué de jouer ça, je veux dire. De mettre un peu plus d'émotion que simplement le fatalisme de savoir que ça se produit. Que les héros fassent ça, je dis pas. Mais quand tu vois les gens et que tout le monde subit en mode « Bon, bah voilà, je suis en train de
partir. » Moi, je trouve que la scène a été bien faite parce que déjà... Ils doivent pas avoir mal. Alors pourquoi hurler? Mais t'es plus dans l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et en fait, tes yeux, tu comprends pas pourquoi tu t'effaces. Tu sais, tu.
Non, mais quand tu vois les autres, t'as compris ce qui leur arrive et que tu sens que ça t'arrive à toi, à mon avis, tu dois bien flipper ta race.
Oui, j'aurais flippé, ouais. Mais je crois que c'est pas un cri qui. Si je me poserais plein de questions, est-ce que je vois bien en fait? Est-ce que c'est normal ce qui se passe? C'est plus ça.
Non, c'est bizarre.
J'hallucine pas ou tu sais, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que. Mais c'est pour ça que j'aurais crié.
Sans aller jusqu'à crier, là j'exagère en disant ça, mais qu'il y ait une réaction émotionnelle, ne serait-ce que tu vois quelqu'un qui disparaît, tu es stun. Maintenant que vous savez ce que c'est, je peux le répéter à foison.
Ouais, je sais pas.
Enfin, je m'attendais à autre chose, j'aurais préféré autre chose. Il y a aussi un autre truc par rapport au comics. Dans le comics, en fait, c'est foudroyant. C'est-à-dire que t'as une case, bah là, il y a des gens, la case d'après, il y en a la moitié qui est plus là. Il y a pas d'effet, il y a pas de truc, c'est bam.
Je préfère quand même l'effet parce que s'il y a quand même bon après c'est plus beau déjà la vision et puis ça permet de dire voilà, ils disparaissent.
Oui, ils ont le temps de se dire
c'est plus dramatique, ouais.
Plus dramatique. Après les gens qui ont été choisis, c'est vraiment enfin il reste vraiment que des gens bah voilà, toi t'as le temps de faire le deuxième film. Toi, on se voit lundi pour le tournage du deuxième film. Ouais, c'est bon.
Oui. Non, mais c'est surtout, ouais. C'est surtout, il reste tous les Avengers du 1, en fait.
Voilà, exactement, qui vont...
tous les gros, les gros noms, quoi.
Voilà, peut-être qu'ils vont ramener les autres, mais qui, eux, vont clamser, du coup. Parce que Captain, moi, je pense que lui aussi, il va
passer... Ouais, c'est le finish.
Parce que Captain, quand il balance, il faut pas sacrifier une vie pour en sauver une autre. Mm. Là aussi, la phrase, elle est pas passée là pour rien.
Mm-mm. Ah, mais de toute façon, il faut qu'il meure.
Ils vont mourir.
La plupart,
le contrat est fini.
Ouais, non, mais ouais, mais dans l'un dans l'autre, si on doit parler d'après, mais au bout d'un moment, ils vont faire. C'est et puis les Avengers, ça a été une histoire de renouveau, des nouvelles teams.
Ah, mais ça va être ça, à mon avis, dans le prochain.
Ouais, de toute façon, ils ont dit on est reparti pour 10 ans, donc.
Et
là,
puis
c'est...
un nouveau Captain, tu vois.
Peut-être, t'as pas forcément besoin de tuer les mecs pour qu'ils s'arrêtent, hein.
Ouais, mais ils vont revenir. Si tu les tues, ils reviennent.
Non, mais tu peux simplement faire un passage de flambeau. Parce que du coup, imagine l'acteur, 10 ans après, il fait ah putain, j'aurais bien fait un petit caméo, machin, j'ai un chèque à prendre. Tu peux les remettre, c'est pas gênant.
Tu fais une origin story, tu fais un truc qui a jamais été fait.
Ouais, voilà.
Ou tu fais un clone, j'en sais rien, on s'en fout. Mais. Mais pour dire que pour moi, ils vont mourir parce qu'il faut les. Un peu les mettre sur un piédestal pour qu'ils deviennent.
Ah, tu veux dire pour le côté héroïque de la chose.
Voilà.
L'ultime sacrifice.
Voilà pour montrer, parce que tout le truc d'Avengers, Captain America et compagnie, c'est que les héros n'ont pas lieu d'être, en fait, les accords de Sokovie, machin, truc et compagnie. Et là, d'un seul coup, en éliminant cette dernière menace qui est Thanos et en mourant pour cette Thanos, ils deviennent des martyrs, donc des symboles que les héros sont indispensables et sont acceptés dans la société. Ouais. Donc là, t'amènes les 4 fantastiques, t'amènes des machins, t'amènes des trucs, et tu crées une nouvelle base de héros où les héros sont acceptés dans la société.
Mais, et surtout que là, maintenant qu'ils ont racheté la Fox,
ils ont
T'inquiète.
Ouais.
Bon, par contre, les séries Netflix Marvel.
C'est plus canon, ça.
Ah bah, si.
Si.
After the Titan Incident.
Ouais, je pense, à part. Ça, ouais, ça, il y avait ça, des ça. Trucs disant que les séries Netflix allaient ignorer ce qui se passe en fait.
Ah ouais, ouais,
ça va être. Donc ouais.
Moi je veux juste savoir si Agent of Shield ils vont suivre ou pas.
Agent of Shield, à mon avis, ils vont suivre vu qu'ils ont déjà suivi Jeff Ultron.
Mais
ouais, mais est-ce que. Je pose la question, mais après les séries Netflix elles ont juste à faire ça avant l'incident Titan quoi.
Ça va être ça quoi.
Ceci dit, Agent of Shield peuvent tirer parti du chaos généré par la moitié de la population qui disparaît pour faire des subplots. Hein.
Ouais, bien sûr, carrément.
Ça passe bien.
Faut pas oublier les Inhumains aussi.
C'est vrai.
Et il y a. Je crois que c'est annulé,
Inhumains.
Ah oui, mais
je crois pas que c'était renouvelé.
Oui, mais ils existent quand même.
Ah non, c'est pas renouvelé.
Non, mais le fait que les Inhumains soient présents dans cet univers-là, je pense que c'est ça qu'il veut dire.
Ah oui, mais ils sont là, c'est acté, quoi. Donc là, c'est pour ça que Marvel a dit, bon, les Inhumains, on a bien fait couler le projet, là, on rachète la Fox, on va faire les X-Men.
Mais ils vont déjà lancer Cloak and Dagger, non?
Je crois que
c'est toujours prévu, ça.
Je crois que c'est Fox, ça. Il y a moyen que ce soit
Fox. Non, c'est...
C'est Marvel.
C'est Marvel, il me semble, ouais. Toutes les séries Marvel là, sur Hulu avec Runaways, tout ça.
Cloak and Dagger, ils font pas partie des mutants déjà.
Ouais, mais faut voir si eux ils le considèrent comme canon quoi.
Mm. Justement, c'était ma question, je sais pas.
Broly contre Thanos.
Est-ce que c'est canon?
Non, Broly.
Ah, Thanos direct. Hein.
Thanos. Thanos voilà, faut all the way.
Thanos, 4 pierres, c'est Broly qui gagne.
Ah oh non, désolé.
Thanos, 5 pierres, ok, là peut-être qu'il a un avantage, mais Thanos, 4 pierres, c'est Broly.
Broly-le.
Thor en 2.
Mais non, mais attends, même Thanos, une pierre.
Non.
Non.
Mais, c'est le mec qui met la pige à Hulk. Avec une pierre, il dérouille Hulk. Il se sert même pas de la pierre, donc.
Mais c'est qui Hulk? Broly, c'est un mec qui lance une boule d'énergie, détruit une planète entière.
Voilà.
Déjà de base.
Une petite boule d'énergie en plus. Hein.
Thanos, tu vois qu'il est en PLS pour tirer vers lui une lune.
Voilà. Et surtout, Broly, il dit à des petits, regardez, je vais péter votre planète. Mais regardez-la bien.
Mais Thanos, il dit, je vais tuer la moitié de ta famille.
En claquant des doigts.
En claquant des doigts.
Broly, il veut tuer tout le monde. Lui, c'est pas la moitié. Lui,
c'est 100%.
C'est 100%.
Et il sait pas pourquoi.
Et il s'en fout.
Et ouais, alors que tu vois, Thanos, lui, il a un programme. Oh, lui, tu vois, il a une vraie vision.
Non, moi, je vote Broly.
La galaxie en marche.
Et vous, dans les commentaires, Broly ou Thanos?
Oui, dites-nous, est-ce que vous êtes team Broly ou team Thanos? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment compris les enjeux de ce qu'on est en train de raconter?
Parce que les enjeux sont totalement différents. Il y en a un, il tue pour rien. Et même si l'autre, il tue, il a réfléchi, mais il est con. Excusez-moi, mais il est con. C'est en plus, on a... Est-ce qu'on a conclu le film?
Alors, on va conclure là, parce que on a dit que bah, ça finissait avec tout le monde qui... Enfin, la moitié du staff qui décède. On a aussi une scène post-générique, bien évidemment. Mais avant de parler de la scène post-générique, je vais juste parler de vraiment la fin, qui est un petit peu bizarre, parce qu'elle donne l'impression que c'est presque une fin de film. En fait, je pense qu'on n'aurait pas eu l'annonce qu'il y avait tous les autres films qui arrivaient. On se serait dit, oh putain, ils ont fini le film comme ça. On voit Thanos sur une planète alors assez verdoyante. Donc il est posé, pépère, il regarde l'horizon, il a un petit smile, mais pas le genre, j'ai gagné. Non, le mec apaisé. Le mec qui a fini son aventure. Et en fait, on voit, il y a une espèce de petit panoramique, et on voit, il y a un champ avec son armure qui sert d'épouvantail. Et en fait, c'est une référence au comics, à la fin du comics, où après, alors parce que dans le comics, après avoir perdu la guerre de l'infini, donc il est entre guillemets envoyé en exil, enfin non, c'est lui-même qui s'exile, pardon, sur une planète où il devient fermier et où il retrouve une espèce de paix en s'éloignant de tout le tumulte. Et donc c'est ça qu'on nous montre là. Et je me suis dit, mais merde. Ils ont vraiment pris le parti de faire gagner le méchant. Et après, une seconde après, je fais, ah ben non, il y a le prochain film, donc forcément, il y aura un truc.
Mais c'est bon comme passage. Et moi, par contre, le truc, voilà, quand tu disais, oui, on a annoncé un tas de films, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi Spider-Man, ils l'ont fait éteindre? En fait, là, ils sont morts, mais c'est faux.
Non, mais c'est ça, ouais.
Bah, en fait, c'est toutes les annonces. C'est toutes les annonces du programme où, tu te poses la question, il va revenir, c'est sûr, comment?
Oui. Mais tu vois, par exemple, moi, s'il fallait tuer des gars, j'aurais profité de cette occasion-là, garder Spider-Man et tout, et vraiment ne pas les ressusciter, tu vois, les personnages qui n'ont pas de film. Et là, ça aurait été... Mais putain, son pouvoir, il marche pour de vrai, parce que son pouvoir, on peut faire quand même marche arrière. Tu vois ce que je veux dire?
Tu veux dire qu'il a un pouvoir qui tue les contrats des acteurs, ce qu'on disait au début?
Ouais, qui tue les contrats des acteurs, mais en même temps, le pouvoir, tu peux le réinverser.
C'est-à-dire?
Tu vois, c'est ce qui... En fait,
tu peux réengager Robert Downey Jr., c'est ça que tu veux dire?
Non, en fait, c'est qu'en gros, il tue des gens
avec son genre.
C'est un truc, mais ils vont quand même revenir parce que Black Panther 2, Black Panther, il se fait disparaître.
Oui.
Il se fait désintégrer.
Voilà, tu vois.
Spider-Man,
c'est ça...
on sait qu'il y a Spider-Man 2. Mais le truc, c'est que toi, tu penses que, au final, il y a un truc que je pense à la fin du film, c'est toi, tu penses que cet univers-là, il va gagner. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va vous spoiler le dernier. C'est Strange, il a vu les 14 millions, machin. Mais si. Cet univers-là, il gagnait pas.
Ouais.
Que finalement, Strange, devant le fait que bah, c'est un univers qui perd, il se déplace vers l'univers qui gagne. Où c'est, en fait, un univers qui n'a rien à voir au final. C'est un autre capitaine qui a une autre gueule et c'est un autre acteur qui a été engagé. C'est un autre. Le Iron Man de cette terre-là, il est mort, machin compagnie. Si cet univers-là, en fait, il mourait, en fait.
Ouais, mais.
Parce que Infinity War. C'est une guerre infinie. Non, je passe dans plusieurs paras. Moi, je pense qu'ils peuvent nous surprendre à dire vas-y, finalement.
Ce serait hyper intéressant, mais je ne sais pas si le public mainstream accrocherait.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais
mais
dire.
Mais j'aime beaucoup ton idée.
Il faut des couilles. Mais d'un côté, c'est un truc aussi.
C'est ça qui fait gagner.
Ils ont mis tellement de concepts de comics que tu disais avant qu'ils les fassent. Non, mais c'est mort, ça se fera jamais. Que d'un seul coup, qu'ils mettent l'univers 616. Et d'un seul coup, tu passes sur un univers Ultimate ou je sais pas, un autre. Ça serait stylé parce que d'un seul coup, tu mets le principe d'univers décalé. Et ça te permettrait quoi? Ça te permettrait de justifier que...
T'es 50 000 acteurs différents pour...
Pour les trucs, mais surtout les films Fox que tu viens de racheter, le Deadpool, là.
Ils deviennent cohérents.
Et d'un seul coup, ils deviennent cohérents parce que c'est l'univers nanani nanana.
Alors j'avais lu une fan théorie comme ça qui était sympa, dans le même registre un peu. C'était l'idée que en fait tous ceux qui avaient été désintégrés, en fait c'était eux qui survivaient et que ceux qui restaient c'était ceux qui mouraient en fait.
Là faut aller le chercher loin. Hein.
Ouais mais j'ai lu le truc, j'ai fait c'est séduisant. Parce que franchement, si on démarre le film en mode, tu sais, les mecs, ils viennent de se faire désintégrer, ils réapparaissent, et en fait, on leur annonce, bon bah voilà, vous avez survécu au truc de Thanos, good luck, salut. Et tu fais merde, putain, mais tous les autres, en fait, ils sont guaqués, quoi.
Ouais, mais non, ça m'étonnerait.
Ah, bien sûr, je dis pas que c'est la théorie, mais vraiment, l'idée m'a plu. De la même que ce que Legacy vient de dire, ce côté, on va aller chercher la victoire, mais dans un autre univers. Un peu comme dans Dragon Ball, quand Trunks va dans une autre timeline pour gagner. Mmh. En fait, lui, ça ne va pas changer son futur, enfin son époque, pardon, mais ça lui donnera peut-être le moyen de revenir plus fort et blablabla.
Ouais, c'est ça.
Et c'est une idée qui est plutôt sympa. Ce côté, les choses sont vraiment inaltérables, les morts sont morts. Mais d'une certaine façon, on peut aller chercher la victoire ailleurs.
C'est un peu une justice, ça aussi.
Oui.
Bah, c'est ça aussi.
Ah putain, merde, tu viens tellement de me mettre dans la tronche.
Désolé. Hein.
Non, mais c'est juste. Mais en plus, je dis ça, mais j'aime bien le pitch d'Injustice en plus. J'aime bien.
En fait, c'est le pitch d'Ultraman et compagnie. Et je préfère le côté Ultraman qu'Injustice. Hein.
Mais pour revenir au film. Pour conclure dans tout ça, le truc c'est que c'est cool de voir un méchant gagner quoi. À la fin d'un film au cinéma.
Ah ouais, c'est effectivement un pire contre-attaque. Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai vu des gens, bon, quand je vais pas dire un culte, mais j'ai entendu dire des gens, oh c'est nul, ils ont perdu. Mais je me suis dit, ils ont rien compris au film.
Mais surtout, ils ont pas réalisé que ce film c'est la moitié d'un grand film c'est en ça. Fait.
Bah oui, mais même.
Bah, il y a des gens qui doivent pas savoir, quoi. Qui sont pas aussi au courant que nous, quoi.
C'est marqué à la fin, Thanos reviendra dans Avengers 4.
Alors, c'était un super clin d'œil, d'ailleurs. Thanos will return, énorme, parce que normalement, c'est chaque héros du film.
Ouais, du film.
Et d'ailleurs, ça montre bien, le héros de ce film, c'est Thanos.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ah ouais, c'est son film. Josh fucking Brolin.
Ah, est-ce qu'on peut dire qu'il a lavé l'honneur de tous les mêmes sur greatest crossover since machin parce que il s'était
ah oui non les mêmes, hein.
J'ai été le premier à me foutre de la gueule du film avec ça, le côté super tous les héros rassemblés gnagnagna. Parce que c'est marrant hein, depuis que le film est sorti je n'ai plus vu une seule fois ce même tourné sur les internets.
Il est validé.
Et c'est que c'est validé, les mecs ont dit c'est le plus grand crossover de tous les temps, il n'y a aucune œuvre média
qui compare ça.
Compare ça. Tu peux prendre un... Même Mugen, c'est moins chaud qu'Avenger 3.
Alors attention, j'entends Alba dans mon oreillette qui me dit « Oui, mais il faut expliquer ce que c'est Mugen, les gens ne savent pas. » Donc Mugen, c'est un émulateur de jeux de baston où tu peux mettre tous les persos que tu veux de plein d'univers différents. Et donc, tu peux te faire un Ryu un chevalier versus Zodiac Chevalier du Zodiac versus Goku versus Ultraman.
Mais il fallait déjà dire King of Fighters, ils l'ont fait. Capcom versus SNK, ils l'ont fait déjà.
Oui, mais c'est que deux.
Marvel vs Capcom.
Ouais.
Mais franchement, on revient sur Marvel vs Capcom, deux trucs.
Tekken 7, il l'a fait.
Ah oui, quel crossover.
Quand Peter Quill tient Gamora en joue, et que Thanos change le flingue pour qu'il tire des boules.
Oui.
MVC2.
C'est clairement MVC2. Je sais pas s'il y a un mec dans les bureaux qui s'est dit... ce serait marrant si Thanos il faisait des bulles. Ah ouais, c'est marrant, ah, parce que bulles, clown... Ouais, ouais, pas mal, Terry, l'idée. Ouais, 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 c'est un clown. Oui, oui, c'est un clown. Ouais. Bon. Et en fait, il avait le thème d'MVC2 dans la tête, tu vois. Il avait du jazz. Mais pour moi, c'est sûr que c'est une référence à MVC2, parce qu'on n'a jamais vu Thanos faire des bulles. Enfin, de ma vie, ouais. J'ai pas lu tous les comics de tout Thanos, mais ouais, j'ai jamais vu faire une bulle. Hein.
Dans les jeux, moi...
Vas-y, Alba.
Dans Marvel vs Capcom 2, moi, il y avait Thanos, je me disais, mais c'est pas le Thanos du comics.
Ouais, le faire un gameplay avec des bulles, bon, c'était stylé, parce qu'en gros, c'était se faire dans lequel il enferme les gens, tu vois. Mais ouais. C'était que dans Marvel, et là, d'un seul coup, il fait deux fois les bulles en plus.
Ah, c'est ça, ouais. Une fois, ouais, une fois, j'aurais pas dit, parce qu'on aurait dit qu'au début, ouais. C'était un flingue à. C'était justement que ça ressemblait à un flingue à bulles, quoi, mais une deuxième fois.
C'était là-haut, ouais. Là, non, elle est pas pour rien.
Ils auraient pu sortir des confettis, la deuxième fois.
Non, mais c'est pas le Joker non plus, faut arrêter.
Ouais, c'est ça, quoi.
Chacun son accessoire.
Déjà qu'ils sortent des bulles, est-ce que c'est un concept qui existe sur Titan, les bulles?
Ouais, la physique n'est pas la même, politiquement ils sont plus... Non,
mais ils le disent quand ils arrivent sur la planète de Titan, la gravité elle est plus faible.
Ah oui, donc forcément ouais, tu penses que le rapport aux bulles n'est pas le même.
Donc ça veut dire que normalement ils devaient être plus forts sur la planète de Titan.
Non, mais c'est pas des Saiyajin non plus.
Non, mais c'est par exemple c'est ce qui a permis à Thanos de tirer la lune. Il y a moins de fractions.
Je crois qu'il l'a tiré dans n'importe quel endroit.
Ah oui, là.
Où il était.
Il aurait amené le bout l'univers.
Je pense aussi.
Ouais, vous me cassez les couilles, je vous lance le soleil de la Terre, allez.
Ouais, alors là, il va mourir avec.
Mais non, il s'en fout, un petit coup de j'aime de l'espace et hop, ça passe. Bon messieurs, donc on arrive au bout de ce film et de ce podcast, donc je vous propose qu'on se fasse un dernier tour de table pour que vous nous donniez vos avis donc sur un peu ce que vous attendez pour la suite, très clairement la Avengers 4 quoi, Infinity War Part 2, et puis on conclura après ce nouveau numéro du Topcast. On va commencer par qui veut prendre la parole, allez.
Ouais, je peux y aller.
Eh, vas-y, go.
Alors, moi, ce que j'attends, c'est surtout pas du fanservice dû au contrat, ça veut dire pas un Captain America qui arrive à battre tout seul à Manu Thanos, non, ça j'en veux pas.
Si, ça va être cool.
Comme non, ça, je non, non, arrêtez les gars. À moins qu'il meure... Voilà, de toute façon, j'espère qu'il va mourir. J'espère qu'ils vont tous mourir. Et qu'il restera les rescapés qui feront les nouvelles versions des Avengers. Ce que j'attends, c'est une bonne Miss Marvel ou Captain Marvel.
C'est Captain Marvel. Hein.
Voilà.
Captain Marvel. Ouais.
Que Ant-Man il tire l'expérience de son prochain film. Qu'on a un super Ant-Man aussi, parce que bon, ils vont dans les mondes quantiques ou je ne sais quoi. Mm-hmm. Et j'aimerais bien que Thanos se mange un Naruto no Genjutsu, je ne sais pas quoi, là. Qu'on le fasse réfléchir un peu. Et qui meurt pas tout simplement sans explication.
Il a une belle fin, quoi.
Voilà, qui a une belle fin, tu vois, qui meurt comme Raoult debout. Oh. Et voilà.
Mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui est Raoult? Parce que les gens ne comprennent pas, là, tu parles d'un homme qui n'est pas dans le film.
Moi, je comprends pas.
Alors, pas ta référence, là.
C'est le grand frère adoptif de Kenshiro de la série Hokuto no Ken, connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant. Qui a été boycottée par Ségolène Royal, voyons pourquoi j'ai pas voté pour elle. Et voilà.
Tu respectes pas mon anime, vas-y, je ne vote pas pour toi.
Non, mais par contre, ça, c'est une vraie raison. Si un jour Ségolène Royal ne se présente à n'importe quoi, votez pour la personne en face. Non, mais moi,
ce qu'elle a dit sur les animés et les shonen, ouais, non, je suis d'accord.
Non, mais en fait, c'est un moment, dans les années 90, elle a besoin d'un cheval de bataille. Elle s'est fait un peu le comic code des années 90 à base de nanana, le club Dorothée, c'est pour c'est ouais. Un truc de fasciste. Écoute-moi bien, Ségolène. Je voilà.
Toi
et ton ex-mari.
Vous noterez quand même que cette émission est placée sous une bienveillance politique où nous tapons aussi bien les gens de gauche que de droite, et ça c'est appréciable.
Tous les mêmes.
Ouais, donc voilà, moi en tout cas, moi je suis. Je souhaite que du bon pour la suite. J'ai bien apprécié le film. Bon, il avait quelques petites imperfections, mais de toute façon, on peut toujours chipoter. Et voilà, c'est beau.
Ok, je te remercie. Suivant de ces messieurs, Fix ou... non, Fix, X. Voilà, pardon, Shake, excuse-moi, ou Legacy.
Vas-y, je vais y aller. Du coup, moi, j'ai déjà un scénario pour la suite. Moi, je veux que la suite, définitivement, elle se passe des années plus tard. Mm-hmm. Enfin, tu vois, que pas qu'il direct, que soit tout le monde, ah, vas-y, on va chercher Thanos, on va lui casser la gueule, on va reprendre les trucs. Un peu, tu vois, genre les héros qui se posent, qui disent, bon, bah, on a perdu, et puis ouais, tu vois, ça se passe 10 ans plus tard.
Bah, déjà, on a des nouveaux. Tony rentre sur Terre, hein.
Ouais, non, oui, c'est ça, bah, tu vois, qu'ils rentrent tous sur Terre un peu la queue entre les jambes, quoi, et puis qu'ils disent, bon, on va continuer notre vie. Et puis, t'as justement des nouveaux héros qui prennent la place des anciens. Je sais pas, un Miles Morales pour Spider-Man.
Non.
Shuri qui devient Black Panther.
Parce que.
Bon, enfin, ça, c'est du fan service,
mais.
Quoi, mais ouais.
Un truc que tu soulèves qui est intéressant, c'est que finalement, telle qu'est faite l'histoire, là, il n'y a plus d'antagonisme avec Thanos, puisque lui, il a atteint son but. Et que, à moins que les mecs se disent, ouais, on va ressusciter la moitié de l'univers. Les bails, ils sont finis, donc la vie continue, puisque les autres, entre guillemets, ils ont été épargnés, il n'y a plus de problème pour eux, en principe. Donc, quelle va être l'intrigue qui pourrait découler de ça? Oui, c'est vrai que c'est intéressant de le voir sous cet angle-là.
Mais oui, c'est vrai que le niveau intrigue, je ne sais pas trop quoi, mais tu vois, je ne sais pas, genre, ils font une découverte ah, mais putain, mais docteur, j'avais découvert ça, mais ça veut dire qu'on peut sauver. Bon, bah, allez, la nouvelle équipe, on va casser la gueule à Thanos, allez.
Yeah.
Ouais, je sais pas quoi. Mais après, il y a des trucs intéressants à voir, c'est que sur le tournage de d'Avengers 4, tu vois Ant-Man dans sa tenue actuelle avec Captain America qui lui est dans sa tenue d'Avengers.
D'accord.
Donc il y aura peut-être des bails de téléportation, de trucs de passé quoi. Bon,
temps,
on verra ce que ça donne quoi, mais on verra ce que ça donne.
Ok. Pas d'autre chose à ajouter?
Non, si ce n'est que j'attends très impatiemment la suite et que je suis très content qu'on va juste attendre une seule année pour l'avoir.
Ça, c'est vrai que c'est cool.
Mais en fait, c'est pas vraiment une suite, quoi.
Non, puis je pense que les films qui vont intervenir entre temps, ils ont été assez malins pour que ça nous donne un peu de matière, notamment Captain Marvel. J'ose espérer qu'ils seront assez malins pour ça.
Il est un mois avant.
Deux mois. Il est en mars, Captain Marvel, et l'autre il est en mai.
Début mai, ouais.
Il va se faire comme celui-là, il va sortir début avril.
Ouais.
Mais dans tous les cas, parce que début il était prévu en mai, Avengers 3.
Bah vas-y, enchaîne Legacy du coup.
Ce que je veux dire, c'est. Oui, donc on a que deux films. Captain Marvel, ça se passe dans les années 90, donc on va voir. Ça va être juste une présentation des personnages, les Skrulls et compagnie, ouais, une origin story, mais de l'origin story parce que ça se passe dans les années 90 avec un Samuel L. Jackson jeune dont on vient de voir les photos qui ont leaké. Faut regarder parce que c'est ultra marrant. Moi, ce que j'attends du film, c'est d'être surpris. Voilà. J'étais vraiment surpris en allant voir celui-là. Je me suis dit, j'attendais un film niveau entre Avengers 2 et Avengers 1, en fait, en termes de niveau. Je me suis dit, voilà, si j'ai au moins entre ces deux-là, je suis content. Bah, au final, il est beaucoup, beaucoup mieux qu'Avengers 1. Donc déjà, ça c'est le truc. Voilà, tout le monde était au top niveau, il n'y a pas vraiment de gros points noirs dans le film. On peut chipoter, mais voilà. Là, c'est vraiment tous les défauts qu'avait Marvel sur ces 10 premières années ont été corrigés, et on espère que ça continuera pour les 10 prochaines.
Formidable. Oui. Mais écoutez, moi, je rejoins un peu tous vos avis sur l'avenir. Là, l'avenir est très positif parce qu'ils ont vraiment mis la barre très haut, les gars, si tu l'as dit, hein. Ils ont fait beaucoup mieux que sur les précédents épisodes Avengers. Ils ont su unifier toutes leurs sagas, ce qui était quand même le point sur lequel on les attendait, parce qu'il y avait Gardiens de la Galaxie, le côté Strange, tous ces trucs-là qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer. Je parle au cinéma, parce que ça venait de réalisateurs différents, avec des intentions différentes, et puis bah, le master plan a l'air de bien se tenir.
Voilà, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils n'ont pas mélangé. En fait, ils n'ont pas mélangé. À chaque fois, il y avait un univers.
Mmh.
Tu sais, c'est un peu comme dans les séries Marvel Netflix ou dans Defenders, chaque univers avait son ton de couleur.
Mmh.
Et on savait dans quoi on se dirigeait. Ben là, ils l'ont bien fait.
Ouais, ils ont bien su restituer chaque ambiance que ce qui faisait la spécificité reste, mais soit associé aux autres. Moi, j'attends de voir, est-ce qu'ils vont développer la partie vraiment métaphysique de l'histoire avec Thanos vis-à-vis de la mort. Ça me travaille encore ce point-là. J'espère qu'ils le mettront. Après, ça va être compliqué parce que ça va arriver presque comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, le fait qu'il y ait Gamora dans la gemme de l'âme, pour moi, c'est des éléments qui ont été placés. Il faut qu'il y ait du payoff derrière.
Donc, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas Adam Warlock. Et Adam Warlock, ils ont dit, et c'est James Gunn qui l'a dit, il le gardait pour Gardien 3. Ouais. Donc, du coup, sans lui...
Bah, tu peux le faire différemment. Tu peux
oui,
le,
c'est qu'une
le...
fonction, au final, Adam Warlock.
C'est ça. La fonction, tu la déplaces sur Gamora, en fait.
Pourquoi pas, Gamora qui revient en mode Red Skull avec des nouveaux pouvoirs et tout.
C'est ça, non mais au point où ils en sont, moi je serais prêt à avoir ce truc-là. Mais bon, ça on en reparlera l'année prochaine et si l'occasion se présente, j'aimerais bien qu'on se refasse un podcast. En tout cas messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Hein, Avenger Assemble, vous étiez là.
C'est tout un honneur.
C'est l'honneur que vous me faites en tout cas. On se retrouvera donc prochainement pour s'il y a des nouvelles sorties comme ça qui méritent notre attention. D'ici là, on se retrouve nous sur l'antenne de Bagre au Point. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on a fait le podcast de l'actu. Je pense que ça devrait pas tarder à tomber, mais on vous fera signe à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, selon l'emplacement dans le continuous espace-temps où vous vous trouvez. J'ai foiré ma réplique. Bonne soirée, les gars, et puis à très bientôt.
Allez, bonne soirée.
Ciao.
Bisous. Ciao.